There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Foucault Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Pot Pourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Ça se passait super bien au début, jusqu'à ce que voilà, à la période de l'adolescence, je réalise un peu en parallèle que j'étais gay. Et j'ai compris extrêmement rapidement que ça allait être un petit peu la dernière chose à être dans ce milieu-là.
Quand il y a une minorité qui est agissante, un, deux joueurs qui ne veulent pas jouer avec vous, qui disent « moi je joue pas avec un PD ». Alors en 2020 ou en 2021, en 2022, on espère que le coach dira « bon écoute, le problème finalement c'est toi l'homophobe, c'est toi qui dégage ». Mais moi dans les années 2000 jusqu'à 2010, on disait le problème c'est qu'on veut gagner dimanche, donc tes conneries on s'en fout.
On rêve pas d'être porte-drapeau de la cause homosexuelle, mais il y a un besoin en fait de s'exprimer et de dire en fait que c'est ok d'être gay, c'est ok d'être homosexuel, c'est ok d'aimer qui on veut.
Informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est notre mission tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM dans le cadre du mois des fiertés. Préparez vos chaussures et repassez le drapeau arc-en-ciel. La saison des marches des fiertés LGBT+ est de retour. Pour en savoir plus sur les activités de Pride Toronto ou de Franco Queer, suivez-nous sur Facebook ou popourishow.com. Be yourself, sois toi-même. Et c'est la thématique de Pride Toronto cette année. Bon mois des fiertés, où que vous soyez dans le monde.
Pour Paris 2024 avec France Télévisions.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie qui vous accompagne depuis 37 ans. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader. Pour écouter nos émissions, que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourrishow.com. Popourri Show, un magazine culturel 100% financé par les auditeurs et les étudiants de l'Université de Toronto. Émission exceptionnelle et en direct, mettant la langue française en avant-plan. Une émission réalisée en partenariat avec France Inter, la librairie francophone, RFI, France 24, TV5 Monde. Et un immense merci aux auditeurs, auditrices, amis de la radio et nos partenaires qui ont renouvelé leur partenariat lors de notre dernière campagne de financement. Et si vous ne l'avez pas fait encore, il est toujours temps de visiter www.cut.fm et cliquer sur « Donate » et faites un don à Popourri Show. Nous comptons sur vous. Et oui, nous nous approchons notre objectif, c'est-à-dire les 100 000 dollars. À ceux et celles qui l'ont déjà fait, eh bien, CUTFM Popourri Show vous remercie du fond du cœur. Au menu ce dimanche 9 juin 2024, Popourri Show en partenariat avec Franco Queer vous présente la Franco-Fierté dans le cadre du Mois des Fiertés. Une sélection d'émissions spéciales et d'activités en personne et virtuelles offertes en français. Découvrez la programmation exceptionnelle de Franco-Fierté sur francofierté.ca/2024 ou popourrishow.com. Et ce dimanche, nous faisons un retour des temps forts à des cérémonies commémorant le 80e anniversaire du jour J D-Day et de la bataille de Normandie. Les équipes de nos médias partenaires se sont mobilisées pour que jamais ne s'éteigne le souvenir du débarquement. pour nous joindre tout au long de cette émission, popourichaud@cut.fm. Popourichaud, 37 ans de francophonie d'ici et d'ailleurs. Le son de votre ville. Popourichaud présente une émission spéciale commémorant le 80e anniversaire du débarquement. Rendez-vous exceptionnel, dispositif exceptionnel. Une dizaine d'anciens combattants canadiens, presque tous centenaires, font partie de la délégation canadienne. Dans cette première heure, je vous propose des reprises, des émissions spéciales à cette occasion de Radio-Canada, de nos médias partenaires en France. Organisées pendant 3 jours, les commémorations du débarquement alliées lors de la Seconde Guerre mondiale ont une résonance particulière en Normandie ce 6 juin 2024. Avec une cérémonie internationale à Omaha Beach, avec la présence de 26 chefs d'État, y compris Justin Trudeau et Joe Biden. Ils sont presque tous centenaires, mais ça ne les a pas empêchés de prendre l'avion dimanche dernier en direction de la France pour assister aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Même s'ils n'ont pas tous participé à cette opération militaire, une dizaine d'anciens combattants canadiens étaient sur place. Plusieurs d'entre eux, résidant à l'hôpital Sainte-Anne, l'ancien hôpital des vétérans à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. Olivier Bachan de Radio-Canada les a rencontrés avant leur départ.
C'est drôle de vous dire ça, mais pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Une chose que j'aurais pas aimé manquer.
We had a job to do, and we did it.
Moi, j'avais 21 ans. Ils ont dit, tu rentres dans l'armée. J'avais pas le choix.
Vous êtes pas mal bon.
À l'approche de son 105e anniversaire, Léopold de Thibault se prépare à retourner sur les plages de Normandie.
On a hâte de faire le voyage avec vous.
Ouais. Un voyage qui le ramènera 80 ans en arrière. Le 7 juin 1944, une journée après le débarquement, il arrive en renfort avec le corps des ingénieurs de l'armée canadienne.
On débarquait comme les autres, tellement que c'était moins dangereux parce que l'infanterie puis l'artillerie avaient poussé les tanks. Il avait poussé l'Allemand un peu.
Sa première mission, construire des réservoirs d'eau potable pour les soldats.
On devait avoir quelques tas d'équipement. Puis on est allé bâtir un réservoir sur le bord des côtes, près de ce qu'il y avait de l'eau pour pomper. Après ça, on est allé en Belgique. Parce qu'on est en Belgique, on est allé bâtir un pipeline. En Hollande, on est allé bâtir des ponts. Des ponts sur les grosses rivières.
Le corps des ingénieurs devait aussi accomplir une tâche périlleuse, déminer le terrain pour permettre le passage de l'infanterie.
Les autres, ils nous protégeaient, puis nous autres, on allait à terre à quatre pattes. On allait ramasser les mines, faire le chemin. Il n'y a personne qui aimait ça. Mais ça faisait partie de naturel.
Il a pu rentrer au Canada en 1945, sain et sauf.
Une fois que c'est fini, là, t'es content.
Annie McNamara, 102 ans, et son mari Howard, 104 ans, seront aussi du voyage. Lors de notre passage à l'hôpital Sainte-Anne, c'était le jour de leur 76e anniversaire de mariage, ce qui mérite sans contredit la médaille de bravoure.
I feel a wonder how I did it. How we made it through that long. Ooh, wasn't easy at times.
Ils se sont rencontrés après la guerre. Tous deux étaient membres de l'aviation royale canadienne.
All young men were leaving. They were all going away, going overseas, and I thought I'm not going to be left here.
Danseuse dans l'unité des divertissements, elle a fait la tournée des bases militaires du Canada pour remonter le moral des hommes en uniforme, puis en Europe après la guerre.
Very hard work, very hard. Unit, we carried all our drapes, our lighting, In case the stage was bare, we'd have to set it up.
Quant à Howard, c'est par conviction qu'il s'est enrôlé pour défendre son pays.
Puis moi et mon petit frère ont décidé que nous, on va y aller de nous-mêmes et on voulait faire des pilotes.
Lors des campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie, il a piloté un Spitfire, un avion de chasse muni de mitraillettes.
It was dangerous. When you're escorting bomber command, you're fighting anti-aircraft, trying to get them.
Malgré les difficultés, la mort de son frère tombé au combat, il ne s'est jamais laissé décourager.
We weren't thinking of going back home. We were continually thinking of the job we had to do.
Je suivais la guerre 39-45 dans les journaux. J'avais pas hâte que ça se finisse parce que je voulais y aller.
Volontaire impatient, Charles Arcan aurait aimé être pilote, mais sera finalement mitrailleur. Perché dans la tourelle d'un avion, il devait tirer sur des cibles allemandes.
Je voyais à 360 degrés. Hein? Alors, ce qu'on bombardait, je le voyais avant, je le voyais après. Il me semblait très à mon aise, parce que c'est ce que je voulais faire.
Il devait faire le voyage quand nous l'avons rencontré.
Je tiens à y aller. Je pense que ça va être très intéressant.
Malheureusement, le vétéran de 99 ans a dû y renoncer pour des raisons de santé.
Votre cœur est bien régulier.
Oui.
Oui.
Les précautions sont évidemment nécessaires lorsqu'on part en voyage à cet âge.
On les monitore très étroitement. On leur fait des examens jusqu'au bout des ongles avant de partir.
En plus d'être accompagnés par des membres de leur famille pendant leur séjour en Normandie, la dizaine d'anciens combattants pourront compter sur la docteure Geneviève Richer et d'autres membres du personnel médical de l'hôpital Sainte-Anne.
Des médecins d'ici, des infirmières. Cette année, on amène aussi une ergothérapeute, physiothérapeute, inhalothérapeute, étant donné leur âge, leur très, très grand âge. Hein, ils ont tous autour de 100 ans.
Léopold Thibault assistera aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement en compagnie de ses deux filles.
Les autres, ils ne sont jamais allés en France. Ça fait que ça va être nouveau pour les autres. Ça me fait plaisir, les amener. Ouais.
Une occasion pour lui de lancer ce message.
Dire aux gens, aux jeunes surtout, de faire le possible pour s'arranger pour pas qu'il y ait de guerre. La guerre a fait du ravage qui ne reparlera jamais. C'est pas croyable. Des millions de personnes qui sont mortes.
Un plaidoyer pour la paix, des paroles de sagesse qui méritent d'être écoutées.
Dormiront sous les fleurs un monde. Angleterre.
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force.
Soldats, marins et aviateurs des forces expéditionnaires alliées.
You are about to embark upon the Great Crusade.
Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la Grande Croisade,
toward which we have striven these many months.
Vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois.
The eyes of the world are upon you.
Les yeux du monde sont fixés sur vous.
In company with our brave allies,
avec nos valeureux alliés
and brothers in arms on other fronts,
et nos frères d'armes des autres fronts, vous détruirez la machine de guerre.
You will bring about the destruction of the German war machine.
Le jour s'est déjà levé ce 6 juin 1944 quand le général Eisenhower diffuse ce message radio à l'intention des troupes alliées. Au cœur de la nuit, il vient de lancer l'opération Overlord avec 24 heures de retard en raison de la météo. Sur la Manche, une armada de 5000 navires transporte 130 000 soldats. Les vaisseaux de guerre bombardent le mur de l'Atlantique que les Allemands avaient érigé le long des côtes. Dans le ciel, des avions lâchent des bombes et des parachutistes par milliers. C'est le D-Day, le jour J du débarquement. Il démarre vers minuit, ce 6 juin 1944. Il se poursuivra durant quasiment 3 mois, jusqu'en août et la libération de Paris. Pour le maréchal allemand Erwin Rommel, c'est le jour le plus long. Les témoins de ces premières heures du D-Day n'ont rien oublié.
Et à 6 heures du matin, ça frappa à la porte. Il y en avait un qui parlait français. C'était Brossard. Il dit, n'ayez pas peur, on est vos amis américains qui viennent vous libérer. Dans la journée, ils sont allés dans la grange et ont nettoyé leurs fusils qui étaient mouillés, bien sûr, tout trempés, et eux aussi.
Quand ils ont débarqué, beaucoup de jeunes soldats alliés, américains, britanniques, canadiens et français, se sont retrouvés pris au piège, se noyant, pour certains, avec leurs 40 kilos d'équipement sur le dos. D'autres ont été abattus sur les plages, au pied de falaises, notamment à Omaha Beach. Des vétérans survivants se souviennent encore de tout.
On a peint les ailes des avions en blanc. Et chaque chasseur avait une bombe sous chaque aile. Ils ont lâché des bombes sur la Normandie. Nous avons perdu, j'ai perdu 30 amis proches. C'était juste un jour terrible.
C'était leur débarquement. Interception historique 80 ans après le D-Day. Un reportage collectif signé Martine Abbat, Béatrice Duguet, Antoine Gignot, Simon Monoury. On plonge d'abord dans un album photo. C'est Roger Le Neurès qui tourne les pages. Ce vétéran centenaire raconte son débarquement à Martine Abbat.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Où je suis en photo? Alors, c'est où on voit un soldat avec un gros casque qui tend le bras.
C'est vous là?
Oui.
Mais alors là, vous êtes sur un bateau.
Sur le Liberty Ship.
Qui vous emmène sur les côtes françaises.
Voilà, on est au large d'Omaha.
Et qu'est-ce que vous montrez du doigt là?
Eh bien, je dois montrer la côte, sans doute, je suppose. Donc c'est le bateau, le Texas. On est au large d'Omaha. Voilà.
Et donc, votre tenue, c'est une combinaison avec une ceinture en cuir.
Eh bien, c'est la ceinture que j'ai là. Donc, c'était en toile. Hein. Les équipements américains étaient en toile, ils n'étaient pas en cuir.
C'est une ceinture en toile.
Oui, d'accord. C'est comme elle est là.
Ah, c'est celle qui est là, d'accord.
C'est celle qui est là.
Cette ceinture.
Donc, tous ces copains-là, ils sont tous morts.
Ils sont tous très jeunes, là, sur la photo. Hein.
Oui.
Ils ont 20 ans.
Oui, 22 ans maximum. Hein. Celui-là, il a été blessé en même temps que moi. Voilà, oui.
C'était vos copains?
C'était tous les copains de l'escadron, oui.
80 ans après le débarquement, un vétéran américain du D-Day s'apprête à revenir en Normandie pour célébrer cet anniversaire et pour se marier. Il s'appelle Harold Terence, il a 101 ans. Le 6 juin 1944, il était à bord d'un avion de l'US Air Force. Nous l'avons appelé au téléphone juste avant son départ.
C'est Antoine Gignot qui a composé le numéro pour joindre Mr. Harold Terrence.
Hello.
Hi, Harold?
Yes, this is he.
Oui, lui-même.
Nice to meet you.
Ravi de vous rencontrer.
Yeah, nice to meet you too. Est-ce que vous avez déjà fait votre valise pour venir en France?
No, not yet.
Non, pas encore.
Okay.
I go from West Palm Beach.
On va partir de West Palm Beach pour Atlanta, puis Paris.
Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire où est-ce que vous étiez en juin 44, qui a donné les ordres et qu'est-ce que vous avez fait?
Okay, I was a radio operator.
J'étais opérateur radiomécanicien sur un avion de chasse, un P-47 Thunderbolt basé à Ecclesall, en Angleterre.
I had left New York Harbor.
J'avais quitté le port de New York
on my birthday, on my
le jour de mon 20e anniversaire.
We sailed in a convoy of
avec un convoi
100 ships.
D'une centaine de bateaux. C'était le 6 août 1943. La veille du 6 juin 1944, personne n'était autorisé à quitter la base. Il y avait un secret total. On était en état d'alerte. On a peint les ailes des avions en blanc pour que les avions alliés puissent être facilement reconnaissables. Le lendemain, tous les avions de chasse ont décollé pour escorter les bombardiers. Et chaque chasseur avait une bombe sous chaque aile. Ils ont lâché les bombes sur la Normandie pour permettre les atterrissages. Moi, je m'occupais de la liaison radio pour que le pilote puisse rester en communication facilement avec le sol. Et il a réussi à remplir sa mission. Et il a été capable de revenir en Angleterre. Il a pris un petit encas, il a mangé un bout, et il est retourné au combat. La plupart de ceux qui ont survécu ce jour-là ont fait 3 missions. Nous avons perdu, j'ai perdu 30 amis proches. Ils ont été abattus au-dessus de la France par des Messerschmitt, je crois, ou par les troupes au sol. Ils ont explosé. C'était une vision horrible. C'est un jour terrible. Moi, j'avais envie de pleurer. J'ai perdu quelques-uns de mes meilleurs amis. On était très proches avec les pilotes. 12 jours après le D-Day, je me suis porté volontaire pour aller en Normandie. Je crois qu'on a atterri sur une petite route près de Caen et on a ramené les premiers prisonniers allemands qui avaient été capturés. C'était terrible. C'était écœurant. La guerre est horrible et écœurante.
Vous voulez dire à cause des bombardements et de tout ce qui avait eu lieu avant?
Il y avait des milliers de soldats morts avec la tête explosée. C'était une vision horrible. La guerre, c'est une des choses les plus affreuses à vivre. Je crois qu'on peut surmonter nos différences en communiquant, mais je ne crois pas à la guerre. J'ai vu trop de choses pendant les 2 années où j'étais en zone de guerre. Partout en Europe, des hommes, des femmes, des enfants qui ont été tués. La plupart de mes cauchemars viennent de ce qui s'est passé en France.
Aujourd'hui encore? Juste un mot sur votre mariage. Quand est-ce que vous avez pris cette décision de vous marier et pourquoi en France? Et quel est votre lien avec la France aujourd'hui?
Eh bien, j'ai un peu plus de 100 ans. Ma fiancée a 96 ans. Aucun de nous deux n'a besoin de fauteuil roulant ou de canne. On est tous les deux en excellente santé. Alors, on a décidé de se marier parce que... Pourquoi pas? Et je lui ai dit, marions-nous quand nous serons en Normandie. Et elle a répondu, d'accord, moi je t'épouserai n'importe où. On peut dire que c'est vraiment une histoire d'amour. On va se marier le 8 juin, 2 jours après les cérémonies. On va se dire oui à la mairie de 40 ans. J'ai une petite fille qui va venir et qui va chanter la chanson de Whitney Houston. I will always love you. Moi, j'ai pas appris beaucoup de phrases en français. Mais si vous voulez, je vous chante une chanson. Je crois que ça commence comme ça.
Avec un petit béton, Valentine, Valentine. On avait de tout petits montants que je t'attends à t'attendre. La 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 la.
Elle avait de tout petits bétons, Valentine, Valentine. Elle avait ce tout petit téton que je t'attends à t'attendre.
Les Américains, comme Harold Terence, furent parmi les premiers à débarquer le 6 juin 1944, quand des combattants français attendaient encore leur tour. Comme Paul Le Terrier, 102 ans, dernier vétéran des fusiliers marins de la bataille de Bir Hakeim. Lui a débarqué en Provence seulement quelques semaines après le D-Day. Ce jour J, il était encore plus au sud.
Nous étions en Italie à ce moment-là, parce que nous avions fait les combats de Libye, la Cyrénaïque, la Tripolitaine, tout ça, et elle la mène. On avait là pour mission de leurrer les Allemands.
Comment est-ce que vous apprenez le débarquement en Normandie? C'est par la hiérarchie? C'est par la radio?
On a appris ça par les radios, parce que quand ils ont fait le débarquement, ils n'ont prévenu personne. Hein. Et ça, le débarquement en Normandie a bien réussi. On était très contents qu'ils aient débarqué en Normandie. Je vous dis, nous, le boulot qu'on avait fait, on n'avait pas lieu de le regretter. C'était un boulot sensationnel qu'on avait fait. On était un contre 10 tout le temps. On pensait bien sûr qu'on pouvait se faire descendre. On le savait, il y a eu des canons qui ont sauté, des véhicules tracteurs de canons qui ont sauté, dont le véhicule dans lequel j'étais. J'avais déjà été blessé une première fois, et je marchais donc très mal, et j'avais un pansement qu'on m'avait mis, un pansement individuel. Pour marcher, j'avais été obligé de l'enlever parce qu'il descendait tout le temps. Alors je l'ai foutu en l'air, et puis j'ai continué avec deux copains. Les autres, on les a pourvus, on ne sait pas où ils étaient passés, On a fait donc le débarquement à Cavalère, à côté de Nice. On est descendu du cargo qui nous embarquait par une échelle de corde sur le long de la coque du navire. Et on avait embarqué dans nos véhicules et je me suis mis au volant et on a fait, je dis, le débarquement à Cavalère.
Quand vous arrivez, à votre rôle à Cavalère, c'est quoi?
J'étais conducteur de scout car c'était une voiture de reconnaissance. C'est un blindage 1 cm. C'était pas beaucoup. Alors, je vais vous montrer un scout-car là-dedans. Il y en a... Voilà les scout-cars.
Oui, on a une photo.
Scout-car. Ça, là, il est ouvert. Là, c'est moi. Là, c'est le chef de voiture. Le tireur à la 12-7, tireur à la 7-6. Et ce malheureux, il était arrivé dans son pays, presque arrivé. Il a reçu une balle dans l'œil. Il est mort. Et moi, j'en ai reçu plein le coup. Et je ne pouvais plus tourner la tête. Et quand je tournais la tête, ça faisait crac, crac, crac. C'était très audible. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez mes parents pour la première fois, tout le monde a été surpris de voir que je faisais du bruit en tournant la tête. Et ça me faisait un peu mal, bien sûr. Les éclats, je les ai toujours. Hein. On n'a jamais pu les extraire.
Vous, pour les commémorations, vous serez où?
Ben, la prochaine, je serai à Utsavitch.
Sur les plages du débarquement, 200 vétérans sont attendus. Roger Lenerès, lui, n'aura pas la force de se rendre à Omaha Beach cette année. Il restera dans sa maison à Épinal, devant ses médailles de guerre, encadrées dans son bureau, qu'il appelle aussi son musée. Il pensera à ses camarades morts au combat. La moitié de son régiment de la 2e DB a perdu la vie pendant la guerre. Pourtant, pour ce 80e anniversaire, Roger Lenerès aurait rêvé de se rendre en Normandie.
J'aurais bien aimé aller cette année pour le 6 juin. J'aurais bien aimé être présent. Parce que si j'avais été, j'aurais sans doute vu le roi Charles III.
Je l'aurais d'abord remercié pour l'accueil du peuple britannique pendant mon séjour en Angleterre.
En 1944.
Mais je lui aurais dit que j'ai connu sa mère, la princesse Elisabeth. J'ai connu la, enfin connu. J'ai été à une cérémonie où la princesse Elisabeth était présente. Dans une remise de drapeau à la DB de Fagnon, la princesse Elisabeth était mobilisée, elle était en tenue d'ambulancière, elle conduisait une ambulance. J'ai vu la princesse Elisabeth en 44. J'avais 21 ans, elle devait avoir 3 ans de moins, ou 3 ou 4 ans de moins que moi. On m'a toujours dit que j'avais beaucoup de sang-froid, moi. J'ai jamais envisagé que je pouvais mourir au combat. Ça m'a jamais passé par la tête. Je me suis toujours dit, je m'en sortirai. Oui.
Vous n'avez jamais eu peur dans votre tourelle de l'automitrailleuse?
Non. Ce qui m'est arrivé, c'est que après coup, après un affrontement avec l'ennemi, on a du mal à respirer et on a les jambes qui tiennent plus. Alors est-ce que c'est ça la peur? C'est possible. J'ai été blessé une première fois devant Baccarat. Puis j'ai été blessé donc en Alsace par un éclat d'obus de mortier qui est...
Au visage?
Là, ben oui, j'ai pris un coup là, vous voyez, là, il y a encore un trou là.
La joue?
Ben oui, j'avais eu un gros éclat qui m'était... Et puis j'avais des petits éclats un peu partout.
Est-ce que vous êtes un héros?
Non. Non. Non, non, non. Non, les héros... Pour moi, les héros, ce sont ceux qui ont donné leur vie au pays à l'âge de 20 ans. Ceux-là sont morts, ils sont morts en héros.
C'était leur débarquement, un reportage de Martine Abbat, Béatrice Duguay, Antoine Gignot et Simon Monoury. Réalisation Guillaume Giraud et Paul Laporte. Mixage Manuel Couturier. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute en podcast sur le site de France Inter et les applis de Radio France.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Vers leur trace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre.
C'est l'un des héros du jour à Sainte-Mère-Église. Jacques Einstein, 100 ans, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il a traversé l'Atlantique pour rencontrer les Français. À ses côtés, Valentin Thomas n'en croit pas ses yeux.
C'est un honneur de l'avoir à côté de nous, franchement. Il nous en reste plus beaucoup, alors faut les préserver.
Au drapeau !
Arrivés samedi en France, les vétérans ont participé à leur première cérémonie hier. Soutenus par leurs proches, ils se mettent debout malgré l'émotion et la fatigue. Un garde à vous comme il y a 80 ans. Pour David Marshall, difficile de contenir ses larmes. Il avait 19 ans lors du débarquement.
Mon cœur déborde avec tous ces gens et ces cérémonies. J'ai atterri à Omaha Beach quelques jours après le début du débarquement. Et c'était vraiment une bataille terrible. Et je suis chanceux. Vraiment chanceux.
Même émotion pour Dennis Bolt, 99 ans.
Ce matin, j'ai déposé un drapeau dans le cimetière où mes amis sont enterrés. Je suis tellement honoré.
Face à ces héros de la guerre, des centaines de personnes venues leur dire merci. Parmi elles, Dani Patricks. Elle avait 5 ans quand les Américains ont libéré son village.
Je suis si heureuse de vous voir, car pour moi, vous êtes mes héros.
Dani est une célébrité. Cette photo où elle porte une robe fabriquée avec des parachutes américains a fait le tour du monde.
Voir des fusées éclairantes avec des petits parachutes qui les portaient et tous ces hommes qui descendaient du ciel, c'était pour une enfant, c'était un rêve.
Cet anniversaire est aussi l'occasion pour la France de remercier tous ceux qui ne sont plus là. Ce militaire américain est venu spécialement à Omaha Beach pour inscrire sur le sable le nom de son grand-père décédé.
Les seules choses qu'il me reste de lui, ce sont ses médailles et quelques photos de lui ici en Europe pendant la guerre. Alors pour moi, c'est un honneur, une fierté.
Toute la semaine, les Français rendront hommage à ces jeunes hommes qui ont bravé la mer et le danger pour libérer la Normandie.
Aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières. Cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement.
La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau.
Nous ne voulons plus de guerre.
les armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Édition spéciale, 80e anniversaire de commémoration du débarquement sur CUT 89,5 FM. Et oui, plusieurs cérémonies ont eu lieu jeudi dernier en Normandie pour célébrer les 80 ans du débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale et rendre hommage aux soldats britanniques, canadiens et américains venus combattre en France. La cérémonie commémorative nationale canadienne s'est tenue à Juno Beach, le nom de code donné à cette plage normande où 14 000 soldats canadiens sont débarqués par la mer et les airs le 6 juin 1944. Les peuples des Premières Nations, les soldats québécois, acadiens, étaient sur place. L'artiste québécoise Cœur de Pirate nous a interprété une très belle chanson. Les alliés d'autrefois ne sont plus exactement ceux d'aujourd'hui. Alors que la France, la Grande-Bretagne, les Américains et les Canadiens combattaient aux côtés de l'armée rouge, désormais la Russie qui a envahi l'Ukraine il y a plus de 2 ans s'inscrit clairement dans le camp adverse. Plusieurs médias, surtout les médias français, ont chamboulé leur programmation jeudi dernier afin de souligner cet événement historique. Parmi les questions des centaines d'auditeurs et d'intervenants, que retiennent les jeunes d'aujourd'hui de ce moment historique? Une guerre où des milliers de soldats se sont sacrifiés pour nos libertés. 8 décennies plus tard, sur la plage d'Omaha Beach, les Alliés se sont retrouvés sans la Russie pour célébrer la victoire sur le nazisme, alors que la guerre fait de nouveau rage en Europe. La cérémonie internationale était très émouvante. Témoignage, retour des temps forts de ce 6 juin 1944. Parmi les messages à retenir, le discours d'Emmanuel Macron. Nous sommes tous des enfants du débarquement. Justin Trudeau, la démocratie est encore aujourd'hui menacée. Elle est menacée par des agresseurs qui veulent redessiner les frontières. Elle est menacée par la démagogie, la mésinformation, la désinformation et l'ingérence étrangère. La démocratie doit être défendue sans relâche. Nous le devons aux générations futures. Pour le Premier ministre français Gabriel Attal, l'histoire est une leçon pour l'avenir. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons l'entendre et l'écouter alors que la guerre frappe à nouveau l'Europe et que sur le sol ukrainien, on meurt pour avoir commis l'affront de vouloir être libre. Pour Joe Biden, en Europe, nous avons un exemple très clair. L'Ukraine, qui a été envahie par un tyran qui cherche la domination. L'Ukraine, qui se bat avec une extraordinaire bravoure, qui essuie des pertes très lourdes, mais qui jamais n'a reculé. Nous ne faiblirons pas. Ma question, madame, monsieur, quand on regarde ce qui se passe dans ce bas monde aujourd'hui, qu'avons-nous vraiment appris du passé, du D-Day? Eh oui, on conclut avec quelques temps forts de la cérémonie du 6 juin d'Omaha Beach et la chanson, le chant des partisans chanté par des jeunes.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
La libération, notre libération, n'a pas été l'affaire d'un jour, fût-il le plus long. Elle n'a pas été l'affaire d'un été. Elle fut préparée par les résistants, possible grâce à l'engagement du front de l'Est et orchestrée par les alliés. Il a fallu cette lente reconquête de l'Europe par la guerre. Il a fallu le temps long et l'abnégation tenace qui seul prodigue l'amour de la liberté. Les 6000 hommes des forces françaises libres, débarqués en Corse en septembre 1943, ralliés par les Italiens. Le patient travail de sape, des centaines de milliers de résistants français de l'intérieur, freinant les déplacements, perturbant les communications de l'ennemi, harcelant les troupes, retardant la remontée depuis Montauban de la division Das Reich. Les renforts des alliés, débarqués en Normandie tout le long des mois de juillet et d'août. Les Norvégiens, la brigade Piron composée de Luxembourgeois et de Belges, à la poitrine frappée du Lion d'Or. La brigade néerlandaise, Princesse Irène. La deuxième division blindée française du général Leclerc. La première division blindée polonaise. La brigade blindée tchécoslovaque. Puis le débarquement des alliés en Provence, dont 250 000 sous les couleurs françaises, français libres, évadés de France, pieds noirs, volontaires du Maghreb, d'Afrique occidentale ou équatoriale, Marsouins de la coloniale, goumiers marocains, fantassins algériens, tirailleurs tunisiens ou sénégalais qui, ensemble, ouvrirent un autre front. Il a fallu aussi la tenaille du front de l'Est, l'engagement résolu de l'armée rouge et de tous les peuples qui formaient l'Union soviétique d'alors. De ces millions de soldats qui se sacrifièrent pour fixer 180 divisions allemandes, en leur infligeant de lourdes pertes au prix d'un tribut de sang. Oui, par la convergence de leurs efforts, par le rassemblement de leurs forces, Cherbourg tombe au bout d'un mois, puis Caen, Orléans, Paris, Marseille, Lyon, Metz, Calais, Strasbourg enfin, fin novembre, et jusqu'à l'Allemagne, qui ne capitule qu'en mai 1945.
Oh, et pensez-en, oh, et pensez-en, c'est la loi.
m'évite.
L'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
Lire, c'est se frotter à des personnages qu'on ne connaît pas, à des idées qu'on ne connaît pas, à des philosophies qui nous sont inconnues, à des mentalités qui nous sont étrangères. C'est ça lire, sinon vous restez dans votre petit monde. Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie qui vous accompagne depuis plus de 37 ans. L'ingénieur du son DJ Devera, animation, production Eric Kader. Pour écouter nos émissions, une seule adresse, popourrishow.com. Popourri Show, un magazine culturel 100% financé par les auditeurs et les étudiants de l'Université de Toronto depuis 37 ans. Une émission exceptionnelle et en direct mettant la langue française en avant-plan. Une émission réalisée en partenariat avec France Inter, la librairie francophone, RFI, France 24, TV5 Monde. Un immense merci à nos partenaires qui ont renouvelé leur partenariat. Ciné Franco, plus de 26 ans à nos côtés, qui nous présente le Toronto Jewish Film Festival. Et oui, 4 films au mois de juin à retrouver sur notre site web. Ah oui, un festival à ne pas manquer. Les podcasts Quoi de neuf à les cafés du Créfaux qui ne finissent pas de nous émerveiller. Les éditions Prise de Parole qui vous proposent des idées cadeaux littéraires tout au long de l'année, mettant en vedette la riche diversité des écrivains de l'Ontario, de l'Acadie et du Canada. Sophie Franc, un organisme qui est au service des immigrants francophones de la région de Welland, du Niagara. Des activités physiques, musique, danse, cuisine, tout au long de l'année. La Société d'Histoire de Toronto, reconnue et applaudie pour ses conférences et visites guidées. History Tour, mon maître en lumière, l'histoire francophone de la ville de Toronto.
Captiver les yeux du monde entier. Gagner le privilège de porter plus haut nos couleurs. Faire rayonner plus loin nos valeurs. La ligne d'arrivée peut se jouer à peu de choses près, mais il faut des années pour mettre un pied sur scène de départ. Des années de doute et d'espoir. Des années d'épreuves et de victoires pour s'autoriser à rêver de défiler parmi les plus grands. Prendre la mesure de ce que représentent ces cérémonies d'ouverture pour repousser les limites de la technique et du style. Pour jouer de créativité et de virtuosité, pour donner vie aux couleurs, aux matières, au volume, et atteindre un nouveau stade d'élégance en marchant dans les pas de l'équipe de France. Tailler une tenue vibrante et iconique, reflétant notre fierté d'accompagner un moment aussi emblématique. Magnifier chaque détail, ne rien laisser au hasard pour immortaliser cet instant dans les règles de l'art. Le savoir-faire intemporel d'une maison française centenaire pour relever le défi de sublimer chaque athlète de la tête aux pieds et qu'il se sente enfin paré à briller. En 2024, l'équipe de France se distingue d'entrée de jeu. LVMH et la maison Berluti sont fiers de vous présenter les tenues qui seront portées par l'équipe de France lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Berluti, artisan de toutes les victoires.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto. De 11h à 13h. Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est notre mission tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM Toronto, dans le cadre du mois des fiertés. Préparez vos chaussures et repassez le drapeau arc-en-ciel. La saison des marches des fiertés LGBT+ est de retour. Pour en savoir plus sur les activités de Pride Toronto ou de Franco Queer, suivez-nous sur Facebook ou popourichaud.com. Be yourself, Sois toi-même. C'est le thème de Pride Toronto cette année. Bon mois des fiertés, où que vous soyez.
C'est le premier jour du mois des fiertés. Le mois des fiertés, ou Pride Month, a lieu en juin, car c'est le mois pendant lequel se sont produites les émeutes de Stonewall en 1969. La police avait violemment forcé 200 personnes à sortir d'un bar gay de New York. Cet événement a déclenché les premières manifestations pour les droits LGBTQ+, menées par Marsha P. Johnson. Les premières marches des fiertés auront lieu un an plus tard, le 28 juin 1970, à Los Angeles et à New York. À cette époque, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. C'est seulement en 1990 que l'Organisation Mondiale de la Santé a rayé l'homosexualité de cette liste. Plus qu'une célébration, le mois des fiertés est aujourd'hui l'occasion de mettre la lumière sur les droits LGBTQ+, et sur les oppressions toujours existantes. De nombreuses marches sont organisées tout au long du mois de juin, dans le monde entier, pour célébrer la Pride.
Édition spéciale. Le mois des fiertés en partenariat avec Pride Toronto et Franco-Queer, seul organisme francophone à Toronto, luttant pour les droits des communautés de SLGBTQI+, ici, là et partout. Nous attendons environ 3 millions de visiteurs. Est-ce que vous serez de la partie? Allez, soyez des nôtres tout au long du mois de juin pour célébrer les avancements des communautés de SLGBTQI+. Une série d'activités, d'événements et de parties avec nos meilleurs drag queens se greffe à une riche programmation. Pour tout savoir, francopouet.ca ou popourichaud.com.
But also
Du mois des fiertés. Le mois des fiertés, ou Pride Month, a lieu en juin, car c'est le mois pendant lequel se sont produites les émeutes de Stonewall en 1969. La police avait violemment forcé 200 personnes à sortir d'un bar gay de New York. Cet événement a déclenché les premières manifestations pour les droits LGBTQ+, menées par Marsha P. Johnson. Les premières marches des fiertés auront lieu un an plus tard, le 28 juin 1970, à Los Angeles et à New York. À cette époque, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. C'est seulement en 1990 que l'Organisation Mondiale de la Santé a rayé l'homosexualité de cette liste. Plus qu'une célébration, le mois des fiertés est aujourd'hui l'occasion de mettre la lumière sur les droits LGBTQ+, et sur les oppressions toujours existantes. De nombreuses marches sont organisées tout au long du mois de juin, dans le monde entier, pour célébrer la Pride.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la vie, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre.
You are listening to the French Popori Show, MCIUT89.5 FM, et c'est le DJ Charles B de la French Rivera qui vous accompagne. Dans le cadre de cette édition spéciale, le mois des fiertés, sur CIUT89.5 FM. Et justement, Popori est très fier de vous présenter le mois des fiertés en partenariat cette année avec Pride Toronto, Franco-Fierté Toronto et Franco-Queer, seul organisme francophone à Toronto luttant pour les droits des communautés de SLGBTQI+. Une occasion de célébrer la créativité et la résilience des communautés LGBT face à la résurgence de la haine et de l'oppression à leur égard. Hein, on peut les voir tous les jours dans les médias. Pour ses 18 ans, Franco-Fierté Toronto propose un festival majeur, audacieux et vital, fort d'un foisonnement artistique inédit de l'emblématique défilé de la fierté ainsi que des journées communautaires et la scène francophone à Pride Toronto à ne pas rater, drag shows, DJ et animations en français. Et bien sûr, ici sur cette antenne, des émissions spéciales tout au long du mois de juin, ne pas manquer. Je vous invite à retrouver toute la programmation de Franco-Fierté tout au long du mois de juin sur francofierté.ca/2024 ou tout simplement sur notre site web popourichaud.com. Et le mardi 11 juin à 18h, donc cette semaine, Franco-Queer est ravi de vous inviter à une conférence de partage des résultats du projet de réseau franco-ontarien pour l'inclusion des communautés de SLGBTQIA+, financée par Femmes et Égalité des Genres Canada. À l'écoute de sa communauté et de ses partenaires organisationnels, Franco-Queer a réalisé une recherche communautaire intersectorielle et sur l'inclusion, l'inclusivité des soins et des services offerts aux francophones des communautés SLGBTQIA+, en Ontario. Je rappelle que cette conférence sera l'occasion de découvrir les résultats, les témoignages percutants et les outils d'accompagnement issus de cette étude exploratoire. Quel que soit votre secteur d'activité, cette conférence est ouverte au grand public et aux professionnels de toutes
les secteurs. Et oui, cette séance se déroulera en mode Zoom. Donc, si vous êtes à la maison ou que vous soyez à travers la province et même ailleurs au monde, qui sait, veuillez vous inscrire en visitant francofierté.ca/2024. Pour plus d'infos, Elisabeth, qui était des nôtres la semaine dernière, elisabeth@francoqueer.ca. Et le jeudi 13 juin à 18h, le Collège Boréal, en collaboration avec Franco-Queer, organise une célébration du mois de la fierté qui mettra en scène des artistes de drague francophones et anglophones. Cet événement comprendra des performances artistiques ainsi qu'une session éducative pour présenter l'art du drague et sensibiliser aux questions de SLGBTQIA+. Cet événement se déroulera au Collège Boréal, 60 Distillery District Lane, Toronto. Tous les détails sur francofierté.ca/2024 ou sur popourichaud.com. Le mois des fiertés, un mois pour se rappeler des luttes et des avancées des communautés LGBT. Créé à la suite des émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969, des marches de fierté dans différentes villes du monde ainsi que des événements autour de la communauté LGBT se déroulent ce mois-ci. En ce mois où on commémore le débarquement en Normandie, et oui, on ne peut pas passer à côté sur la place des soldats LGBT au cours de ces années sombres de l'histoire. Quel était le sort des homosexuels et des lesbiennes dans l'Europe nazie? Longtemps oubliés, les homosexuels et lesbiennes ont été persécutés sous le nazisme. Et oui, environ 15 000 hommes ont été déportés dans des camps de concentration où ils portaient le triangle rose. À peu près la moitié d'entre eux a péri dans les camps. Ils étaient souvent affectés aux compagnies disciplinaires, dont aux travaux les plus durs. Ils ont pu être victimes aussi d'expériences médicales à supposer les guérir. Et oui, l'homosexualité féminine n'étant pas criminalisée, la majorité des lesbiennes ont échappé à la répression, cela n'empêchant pas les discriminations. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le paragraphe 175 reste en vigueur en Allemagne, cela rendant extrêmement difficile le témoignage des victimes. Le premier témoignage d'un triangle rose, celui de l'Autrichien Hans Heger, est médiatisé en 1972. Il faut attendre les mouvements de libération gay et lesbien des années 1970 pour que le sujet commence à être abordé ouvertement et discuté dans le grand public. Quel était le sort des homosexuels et des lesbiennes dans l'Europe nazie ? Reportage.
On estime que sur les 5000 à 15000 homosexuels enfermés dans les camps, près de la moitié a péri. Le régime lui-même valorisait les relations masculines au sein d'unités comme la SA et la SS, développait une, on va dire, une esthétique homoérotique. En son sein, on trouvait des homosexuels notoires. C'était le cas, par exemple, de Ernst Röhm, le chef de la SA. Néanmoins, un discours homophobe extrêmement virulent était porté par exemple par Heinrich Himmler. Il considérait que l'homosexualité était une forme de dégénérescence. L'homosexuel n'avait aucune valeur sociale. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, toute ambiguïté est levée. En février 33 déjà, les mouvements homosexuels sont fermés, la presse homosexuelle qui existait est interdite. On estime que 100 000 hommes environ ont été fichés sous le régime nazi par les services de police, par la Gestapo. Environ 50 000 d'entre eux ont été condamnés à des peines diverses, peines de prison, envoi en hôpital psychiatrique. Certains ont été envoyés en camp de concentration. Parmi les premiers déportés pour homosexualité, on trouve en fait des personnes dites à l'époque travesties. Certains étaient des prostituées, d'autres se définiraient peut-être aujourd'hui comme des personnes transgenres. On estime aujourd'hui qu'entre 5 000 et 15 000 hommes ont été envoyés en camp de concentration où on leur faisait porter le fameux triangle rose. À peu près la moitié d'entre eux ont péri dans les camps. Les homosexuels dans les camps formaient véritablement une toute petite minorité des détenus, jamais plus de 1% de la population d'un camp. Ils étaient placés dans des baraquements séparés, bien souvent, les nazis pensant que l'homosexualité c'était quelque chose de contagieux. Mais ils étaient aussi isolés parce que d'autres détenus, des détenus politiques par exemple, pouvaient eux-mêmes nourrir des sentiments homophobes. Ils étaient souvent affectés aux compagnies disciplinaires, donc aux travaux les plus durs. Ils ont pu être victimes aussi d'expériences médicales supposées les guérir. Ça a été le cas notamment à Buchenwald, avec des expériences hormonales, avec des castrations. Plus on avance au cours de la guerre, plus l'armée allemande a besoin d'hommes et plus on va chercher à réintégrer ces hommes dans la Wehrmacht, mais toujours pour les placer dans des sections qui sont plus ou moins vouées à la mort. L'homosexualité féminine était invisibilisée de longue date en Europe. Beaucoup de législateurs considéraient que les femmes pouvaient d'une certaine manière être ramenées dans le droit chemin par la pression familiale, par la pression sociale, que les femmes souhaiteraient être mères et que donc elles seraient d'une certaine manière forcées à jouer leur rôle dans la société. La situation des lesbiennes a été différente de celle des hommes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas subi différentes formes de discrimination. On voit qu'elles pouvaient perdre leur emploi, certaines ont été envoyées en hôpital psychiatrique, certaines par exemple ont perdu la garde de leurs enfants. Néanmoins, on connaît des cas de femmes qui ont été déportées en tant que résistantes, en tant qu'asociales, en tant que juives, et aussi en tant que lesbienne, le lesbianisme ici constituant finalement une circonstance aggravante. Au lendemain de la guerre, les triangles roses ne sont pas considérés comme des victimes du nazisme. Le paragraphe 175 reste en vigueur. Cela rend extrêmement difficile le témoignage des victimes. Il y avait un sentiment de honte, il y avait de la peur aussi. Il faut attendre donc les mouvements de libération gays et lesbiens des années 70 pour que le sujet commence à être abordé ouvertement et discuté dans le grand public.
Dans mon cœur, tu n'es pas de bonheur. Dans
édition spéciale. Le mois des fiertés en partenariat avec Pride Toronto et Franco-Queer. Seul organisme francophone à Toronto. Luttant pour les droits des communautés de SLGBTQI+. Ici, là et partout. Nous attendons environ 3 millions de visiteurs. Est-ce que vous serez de la partie? Allez, soyez des nôtres tout au long du mois de juin pour célébrer les avancements des communautés de SLGBTQ+. Une série d'activités, d'événements et de parties avec nos meilleurs drag queens se greffe à une riche programmation. Pour du savoir, francoqueer.ca ou popourichaud.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Merci de nous être fidèles. Alors parce qu'ils voulaient entrer dans ce qu'ils pensaient être la norme, nos invités aujourd'hui se sont persuadés qu'ils aimaient les femmes et qu'ils allaient mener une vie de famille dite classique. Ils ont vécu des années de souffrance pendant lesquelles ils se sont mentis à eux-mêmes autant qu'à leurs proches jusqu'au jour où il y a eu le déclic qui les a poussés à assumer enfin ce qu'ils étaient profondément, à savoir homosexuels et bien décidés à être heureux. Un coming out sur le tard, donc, mais qu'ils ne regrettent rien. Ils ont même très envie de tout vous raconter. Et je vous remercie déjà à tous pour votre confiance. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Denis, Sabine, Jean-Marc, Jeff, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de nous parler d'amour et de tolérance, puisque c'est vraiment le sujet qui nous touche aujourd'hui. Alexandra, vous allez nous commenter les parcours de nos invités et les difficultés liées à cette homosexualité, souvent refoulée par peur ou par honte également. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Alors, Denis, est-ce que vous pouvez me présenter vos deux partenaires, vos deux amours.
Hein. Eh oui, tout à fait. Mais écoutez, on va commencer par les dames.
Oui.
Sabine.
D'accord.
Sabine.
Qui est Sabine?
Sabine, la maman de mes enfants, je vais pas dire ex-épouse, c'est la femme de ma vie aussi, l'unique. Ouais. Et puis, on a été mariés 15 ans, on a eu 3 beaux enfants. Puis après, on a changé de livre, on a pris un nouveau livre. Et puis, Jean-Marc, voilà, c'est mon mari aujourd'hui.
Votre mari aujourd'hui. C'était important pour vous d'être avec nous, Sabine, aujourd'hui?
Oui, c'était important. Dès que Denis m'a appelé pour me demander si je voulais participer à l'émission, j'ai absolument pas hésité, j'ai dit oui.
Quelle relation vous entretenez, Jean-Marc, avec Sabine?
Oh, excellente.
Bon, ça va.
Bon, je vous laisse, alors.
Alors, on va s'intéresser à Denis, notre héros du jour, donc. Denis, vous avez quoi comme genre d'adolescence? Vous aviez des petits copains, petites copines?
Il y a eu les booms, alors j'allais au boom. Bon, j'aimais bien danser les slow, mais je savais pas aller plus loin. Et puis les copines de l'époque me disaient « Oh, puis non, on sort pas ensemble parce qu'après, on va se séparer, ça serait trop triste, t'es trop sympa. »
Ah, t'es trop sympa. Vous étiez le bon copain.
Voilà, exactement. Un peu le souffre-douleur aussi. Et quand je voyais les autres, les copains, j'étais un petit peu jaloux des copains qui se baladaient main dans la main avec les copines.
Ah oui, parce que
le côté tactile.
Voilà. L'étape d'après, hein.
Donc
vous ne vous étiez même pas posé la question, pour vous un jour vous alliez vous marier, avoir des enfants, point barre.
Oui, tout à fait. Bon, et puis par rapport à ça, c'était de par le vécu, de pas avoir connu mon vrai papa, celui qui m'a fait, puisqu'il est décédé, ma maman était enceinte.
D'accord.
Je m'étais mis une sorte de pression, alors qui est absolument unique, et j'ai demandé à ma mère ensuite, et à ma grand-mère paternelle. Je suis le dernier de la famille, le dernier garçon, mon père étant décédé, je m'étais mis une sorte de pression.
La responsabilité du nom.
La responsabilité, mais il faut continuer parce que la famille ne va pas s'arrêter.
La lignée, vous étiez responsable de la lignée.
Il y avait une envie de perpétuité de ce nom.
Vous diriez que vous étiez un peu auto-formaté?
Tout à fait.
Oui, c'est ça.
Tout à fait, je m'étais fait...
Vous deviez pérenniser votre nom de famille.
Voilà, mais c'était bon par rapport au départ du père, un autre papa qui est adorable, bon, qui nous a quittés hélas, mais celui que j'appellera papa, c'est celui qui m'a élevé, puisque
bien
maman
sûr
l'a rencontré.
Ah, vous le connaissez.
J'avais
pas,
un an. Et finalement, j'avais deux papas. Celui que j'avais pas connu, il y avait celui qui était à côté de moi. Dans la rue, on a vécu la ville où j'étais né, où mon père était né, on disait... Oh, c'est le fils de Pierre. Pierre étant mon père décédé, et moi, je voyais à côté de moi un autre monsieur que j'appelais papa. Mais je lui ressemble pas. En plus, il n'avait pas le même nom. Et un jour, j'avais 5 ans, j'ai demandé à ma grand-mère, mais pourquoi papa et maman, ils s'appellent comme ça et moi, je m'appelle pas? Et ma grand-mère, donc paternelle, m'a dit, mais c'est parce que Jaco, c'est pas ton vrai papa. Voilà. Bon, j'avais 5 ans, point, puis c'est tout.
Oui, c'est fin. Fin de l'histoire. Du moment que c'était lui qui vous aimait, vous élevait, vous ne posiez pas plus de questions.
Il y avait déjà un échange comme ça dans la famille assez libre. On n'a pas caché les histoires.
Ouais. Et quand vous avez rencontré Sabine, vous aviez eu quoi comme passé amoureux alors? C'est-à-dire que vous avez eu des petites amies?
Non.
Aucune.
Non.
Ah bon?
Ben non.
Personne avant Sabine?
Non, il y avait, il y avait des coups de foudre.
Oui, mais vous ne passiez pas à l'action physique.
Absolument. Il y a même une petite histoire que j'avais pas racontée où j'ai vécu en Angleterre. Il y avait une dame un peu plus âgée que moi qui voulait absolument me sauter dessus, qui me faisait des lettres. Je suis passé devant chez toi, j'ai vu la lumière, etc.
Ah ouais.
C'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Et elle me faisait peur. Alors, ça n'allait pas m'aider à avancer dans le sujet, sur le sujet.
Mais quand vous parlez de coups de foudre, vous aviez eu des coups de foudre homme ou femme?
Un coup de foudre.
Un petit truc, quoi.
Voilà,
une attirance.
Une attirance, ouais.
Une attirance. Comment vous avez rencontré Sabine?
Alors, on s'est rencontrés parce que j'avais travaillé dans une entreprise comme étudiant. J'étais retourné dire bonjour aux anciens collègues. Sabine y était. On a commencé à papoter. Moi, à l'époque, je faisais, j'ai toujours fait de la musique et j'ai enregistré le premier Starmania comme choriste.
Ah.
Et Sabine est,
Fan.
Fan de comédie musicale, de musique. On est tous fous de musique dans la famille.
Donc ça vous a réuni tout de suite.
Comédie musicale. À l'époque, je faisais de l'art lyrique. Donc elle est venue chanter dans la troupe. Et puis voilà.
Et puis voilà. Les choses se sont faites progressivement.
Rapidement.
Rapidement même.
Rapidement, oui.
Bah, qui a sauté sur l'autre?
Je ne sais pas. Là, j'ai pris mon courage à deux mains quand même. Bon, et puis...
Mais vous n'aviez pas eu finalement. Vous étiez... Vous n'aviez aucune relation intime, vous n'aviez embrassé personne même.
Ben non.
C'était votre première en tout.
J'étais pure, chaste.
Et vous aviez quel âge quand vous avez rencontré Sabine?
Hein?
Ça a bien changé.
Mais bon, ça va, c'est pas le sujet de l'émission.
Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré?
Je ne sais, 21 ans.
Ouais.
À peu près.
À 21 ans?
Ben vous rendez compte.
Ça s'est passé comment alors?
Rosière, mais rosier, on dit.
Oui. Ça s'est passé comment alors? La découverte de la sexualité.
Oui, je l'ai invité. Moi, j'y vais dans un petit studio. On écoutait Starmania en vinyle à l'époque.
Ouais.
C'est revenu. On buvait une liqueur alcoolisée, anisée.
D'accord.
Dit non,
un peu jaune.
Non.
Ah, pas du
blanche,
tout.
Blanche qu'on boit après les repas.
J'y connais rien, évidemment.
Ça
en
commence
liqueur,
par
un... En liqueur. Ah oui, par un prénom.
Ça par un prénom.
Voilà, je l'ai. Vous l'avez, mais vous le consommez avec modération.
Bien sûr. Et puis voilà. Et puis, une attirance. Et puis après, ça nous regarde.
Après, ça vous regarde. Est-ce que vous avez senti, ça me paraît un peu fou parce que vous aviez une vingtaine d'années, mais malgré tout, est-ce qu'il y a une petite intuition féminine? Vous vous êtes posé la question de la sexualité de Denis?
Ah oui,
il le découvre.
Oh, mais si, Denis avait l'air efféminé, donc...
Comment ça, l'air efféminé?
Il l'a toujours été ça un petit peu
oui,
efféminé.
Oui, donc ça pouvait être, oui, effectivement, c'est pas... Mais bon, comme Denis disait tout à l'heure...
Ça ne veut rien dire, on peut être efféminé, hétéro, ça va, ce sont des clichés. Hein.
Voilà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi.
Oui, où, il y a ça aussi, c'est vrai.
Et puis par l'éducation aussi, ce sont surtout des choses dont on ne parlait pas à la maison.
Oui, là...
Non.
Alors, on va accélérer un petit peu les choses, vous tombez amoureux, vous mariez, vous passez 15 ans ensemble, c'est ça? Vous avez combien d'enfants tous les deux? Trois enfants. On voit votre jolie photo de mariage. Ça fait un coup à Denis, hein. Ça fait un choc.
Oui.
C'est quoi? Pourquoi?
C'est, on dirait Dallas.
Et un peu, c'est vrai. Oui, hein. Ah bah ça date un peu, hein, faut dire, hein, faut se dire
oui,
les choses.
C'est les clichés de l'époque, et puis voilà.
Et puis vous prenez un petit peu de l'âge, vous êtes... Enfin, de l'âge, j'y vais doucement, je vais me faire disputer, mais vous étiez heureux pendant ces 15 ans.
Ouais.
Pas de nuages, à part des crises de couple comme tout le monde, mais pas plus que ça.
Oui, voilà.
Vous, ça vous a... Pendant ces 15 années, vous y avez pensé... Vous y avez repensé au fait que vous aviez un doute peut-être sur l'attirance sexuelle de votre mari pour les hommes ou pas, Sabine?
Oui, bien sûr. Mais assez rapidement, de toute façon.
Ouais. À quel moment vous y pensiez ou quels étaient les signes qui auraient pu vous mettre sur la piste?
Quand on a envie et que l'autre a pas envie, voilà, donc on finit par se poser des questions quand même. On peut se dire que les doutes qu'on avait, ça va poser plus de problèmes qu'on ne l'avait imaginé aussi, surtout.
Ouais.
Hein, donc,
oui,
on n'est pas dans l'innocence et dans le... Voilà, peut-être qu'il est homo et je ne suis pas. Et puis, on verra bien, quoi. Et puis, maintenant, la réalité après, ça pose problème, quoi.
Vous lui avez posé la question un jour, pardon?
Oui, il y a certains soirs.
T'as tendu des perches.
Oui, j'ai tendu des perches en lui disant, bon. en essayant de le faire réfléchir sur lui-même, qu'il s'écoute, voilà, qu'il cherche à se découvrir et savoir s'il n'y avait pas justement cette chose-là, l'attente. Mm-hmm.
Ouais. L'attente. Alors justement, oui. Est-ce que cette sexualité-là enfouie en vous, vous avez commencé à la sentir remonter à la surface. Je parle sous le contrôle d'Alexandra, mais en tout cas, vous l'avez peut-être mis un voile dessus. Alors, est-ce que les choses ont commencé à s'exprimer?
Tout à fait, ça arrive. Ça arrive aussi à un moment où on est dans les années 80, où avec l'arrivée de Mitterrand, il y a une libéralisation, je vais y arriver, de la parole, il y a fréquence gay, il y a ces choses-là, les gays arrivent. Et moi, j'avais un collègue qui est arrivé. Alors nous, on travaillait dans un milieu technique et puis on écoutait un petit peu comme une curiosité un peu malsaine et vicieux. On écoutait fréquence gay. Or, il y a des gays qui font de la radio. Et puis ce copain, il dit, mais moi, j'anime des émissions et moi, je suis gay. Et là, je me suis dit... Ah bah tiens, mais qu'est-ce que je fais ? C'est comme ça que j'aurais peut-être dû être, c'est peut-être ça que j'aurais dû être. Et ça a commencé
à
travailler dans la tête, à travailler. Mais c'est un chemin très long parce que on ne sait pas jusqu'où ça va aller et les conséquences que ça va avoir.
Vous avez trois enfants, une famille.
Ah, ils n'étaient pas encore là tous les trois.
Ils n'étaient pas encore là tous les trois, mais en tout cas, vous êtes dans la construction d'une famille.
Voilà, donc on réfléchit beaucoup, on a du mal à en parler. Et ce que j'avais dit une fois à Sabine, elle me dit, mais elle aurait voulu que je sois être ma confidente. Et je crois que moi, dans n'importe quel sujet, la personne la plus proche ne peut pas être entièrement un confident, une confidente, parce que j'aurais pu lui dire des choses et elle aurait pu réagir avec des larmes, avec des cris, etc. Je pense qu'on attend d'un confident une position neutre.
Oui. Donc, elle était directement impliquée, voilà, effectivement.
Elle était trop impliquée, exactement.
Vous avez pensé aller voir un psy ou en parler à des amis?
J'en ai parlé un petit peu. D'abord, j'en ai parlé au médecin de famille qui a commencé à me dire, mais vous faites l'homme ou la femme? Bon, j'ai dit que ça commence mal. Ensuite, il m'a dit c'est dans les gènes. Alors j'ai répondu, eh ben, dans ce cas-là, trouvez-moi le gène de l'hétérosexualité.
Oui.
Ben, pourquoi pas? Et je lui ai dit au revoir, je n'ai jamais tourné. Oui. Là, j'avais été voir un psy qui était à Paris, qui était un petit peu spécialisé dans le problème justement de l'homosexualité masculine et des hommes mariés. Et on a eu trois séances, ça s'est fait très rapidement. Puis,
Qui vous ont aidé?
Qui m'ont aidé à remettre un petit peu le puzzle en place, quoi, et puis de confirmer que certaines pièces étaient bien les bonnes. Je crois que c'était ça. Et une remarque qui était importante, il m'avait dit « Votre femme a les cheveux courts ». Et ça m'avait surpris. Louis, tu avais les cheveux courts.
Ah oui, j'ai toujours
les cheveux courts. Oui, il a toujours les cheveux courts. Et j'ai d'autres copains à qui on a eu le même parcours, et à chaque fois, le conjoint a les cheveux courts, il y a un côté masculin qui apparaît chez le conjoint. Voilà, ça m'avait surpris. Donc trois séances, je rentre un soir, je dis, écoute, j'ai des choses à te dire. Il a fallu que je les explique le pourquoi j'étais dans ma bulle. Ça, c'était très difficile pour eux et pour moi. Parce que j'avais mon univers qui s'était fait, j'étais inaccessible. Mais j'étais présent malgré tout. Et ça, c'est pour eux, ça devait être affreux. Et c'était difficile pour moi. Donc au bout d'un moment, on peut plus vivre comme ça. On lâche le morceau, on dit, voilà, t'avais raison.
Vous faites la révélation.
C'est là que Sabine me dit, je sais, ça fait 10 ans que j'attends que tu me le dises. Et c'est vrai que vous, les dames, vous avez des détecteurs partout.
Ça a été sa réaction, votre réaction, Sabine, vous avez tout de suite dit, ça fait 10 ans que je le sais et que j'attends que tu te l'avoues à toi-même, en fait.
Elle a même dit autre chose.
Mais même pour moi, c'était un soulagement. Parce que, je suis d'une éducation, j'ai été chez les curés, les bonnes sœurs, jusqu'à 20 ans.
Ouais.
Donc ça formate bien et le fait d'avoir moi des désirs que lui n'avait pas, je finis par me dire mais c'est moi qui suis pervers. Le fait qu'il me l'avoue, c'est bon. Donc j'étais normale.
Ah oui, c'est ça.
Et c'était normal.
Ça vous remettez-vous à votre juste place aussi et ça vous soulageait dans votre condition femme hétérosexuelle également.
Voilà.
Oui, je comprends. Mais il a fallu prendre des décisions alors.
Et oui, après, il a fallu faire des choix parce que, alors, il y a une chose qu'elle a, faut que je rajoute quand même qu'elle m'a dit quand je l'ai avoué, on va faire.
Révéler, parce qu'il n'y a rien à avouer,
révéler,
hein.
Voilà, révéler. Elle m'a dit, si tu m'avais trompé avec une femme, je t'aurais mis à la porte tout de suite, mais avec un homme, je peux pas lutter, il me manque quelque chose. Voilà.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que finalement, vous me racontez ça dans le fil de la conversation, avec un naturel évident, alors que c'est quand même une annonce très forte.
Oui. On le raconte un petit peu de cette façon-là parce qu'on a bien dit dès le départ, c'est il y a des histoires qui se terminent bien et c'est bien de les raconter. Il y a eu des turbulences, tout à fait. Il y a eu des choix. Moi, je me suis dit, mais je vais faire éclater une famille. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ça va se passer? Il y a la famille aussi à côté, les parents.
Est-ce que ça impliquait que vous partiez de la maison, vivre votre sexualité? Vous avez envisagé rester un petit peu dans un moment un peu de latence?
Ah, mais c'est oui, parce que de toute façon, quand il me l'a avoué, c'était février 92. Je suis partie en décembre 93.
C'est moi qui suis parti.
C'est toi qui es parti d'ailleurs, oui, tout à fait.
Ah, donc il y a eu quand même 8 mois de cohabitation
et de discussion, parce que, et si on s'est séparés, c'est parce que je lui avais dit, le jour où je rencontrerai quelqu'un, je referai ma vie autrement.
Mais pendant ces mois,
oui.
Pardon, pendant ces mois, Sabine, vous êtes restés ensemble. Vous étiez un couple, vous étiez des copains.
Oui, on est resté un peu ensemble.
Personne ne s'en est jamais aperçu, de toute façon.
Ah oui,
vous en avez parlé à personne. L'un de l'autre presque tous les soirs.
Bien sûr.
Bah, vous continuez à aimer l'homme et la femme que vous étiez.
C'est pas seulement sous la ceinture, c'est aussi au-dessus. Donc, il y a un cœur.
Oui, c'est un cœur.
C'est d'abord ça.
Donc les sentiments étaient toujours là entre vous.
Bien sûr.
Vous n'avez pas eu un moment de colère du tout, Sabine? Vous êtes tout de suite passée à la tolérance, à l'acceptation de l'autre?
Je ne suis pas passée à la tolérance. Non, j'ai jamais eu de colère dans la mesure où j'ai toujours su.
Ouais. Je suis bluffée par cette réaction, Alexandra.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en réalité, un couple se forme. Il y a deux entités, on va dire. Mais il y a l'inconscient de chacun, bien sûr. Mais il y a l'inconscient du couple. Et c'est pour ça que intrinsèquement, vous saviez ce qui se passait, vous aussi. Mais finalement, vous attendiez qu'il y ait des mots posés sur ce que vous ressentiez tous les deux. Et c'était difficile parce que vous ne pouviez pas vous substituer à lui. Il fallait que vous fassiez votre chemin, ce cheminement personnel. Vous n'aviez pas tellement d'éléments puisque vous avez grandi finalement en ne sachant pas que ça pouvait exister. Vous avez grandi aussi en apprenant des choses, pas directement, c'est-à-dire même à l'âge de 5 ans, vous dites on ne cachait rien dans la famille, mais pendant 5 ans, vous n'aviez pas su.
J'avais pas posé la question.
Alors que là n'est pas la question. Oui. Quand on est petit, on peut pas savoir. C'était l'époque qui voulait ça. On n'expliquait pas grand-chose aux enfants à cette époque-là. Et je crois que finalement, vous avez tatillonné, appris beaucoup de choses par vous-même, parce que la parole des parents, c'était un petit peu plus, on va dire, plus réservé, moins, on va dire, dans la discussion avec l'enfant. Donc vous avez appris beaucoup de choses par vous-même. Donc il fallait faire ce cheminement-là pour pouvoir vous-même poser des mots et vous soulager de ces mots-là que vous aviez au fond de vous. Donc c'est cet inconscient collectif, cet inconscient du couple plutôt, qui a émergé à un moment donné, qui est venu à cette conscience et qui a pu permettre cet échange, cette communication et ces mots posés sur ce que vous saviez déjà.
Jeff, ça vous parle, vous, l'histoire de Denis?
Oui, il y a plein de points communs. Je m'y retrouve complètement, pas à l'origine. Parce que moi, depuis très très longtemps, je sais que je suis homosexuel. Je pense qu'à 10 ou 11 ans, je le savais déjà.
Ah.
J'ai eu des expériences avant.
Mais homosexuel?
Homosexuel. Enfin, j'étais boy scout. J'ai croisé donc beaucoup de garçons. Et voilà, j'ai eu pas mal d'expériences en la matière. Le problème, c'est que lorsque j'ai eu, je sais plus, c'est 13 ou 14 ans, faisant ces eaux-là, je me suis fait surprendre par un des responsables dans les bras d'un garçon et qu'on s'est fait punir assez violemment. Et du coup, moi, je me suis enfermé sur moi-même parce que je voulais surtout pas que mes parents puissent le savoir. Je suis issu d'une famille où la religion est très, 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 très présente. Donc, on ne parle pas de sexualité et encore moins d'homosexualité. Ça, c'était... Donc, je me suis bloqué, je me suis fermé, étouffé tout ça. Et puis, j'ai eu de la chance parce que derrière, quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante avec qui je m'entendais très, très bien, avec qui je m'entends toujours très, très bien. Au fur et à mesure de notre relation, en fait, les choses sont faites un peu naturellement. Je me suis dit, en fait, j'avais des sentiments pour elle.
Vous avez été soulagé presque.
Mais oui, complètement.
Finalement, je suis hétéro.
C'est même pas presque. Oui, je suis hétéro. Je me posais plus la question de savoir si j'étais homosexuel. J'étais hétéro. Et c'était un grand, grand soulagement. Vraiment. Parce que
c'était votre première relation avec une femme?
C'était la seule.
La seule. Et une révélation parce que ça vous remettait dans le chemin qu'on attendait de vous. Finalement.
Oui, c'est ça, voilà. J'étais dans la norme, quoi.
Elle le savait, Jeff, que je dis tu. Enfin,
Non, pas de problème.
Tu étais homo?
Absolument pas.
D'accord.
Non, on en a jamais parlé. Enfin, jamais parlé pendant des années.
Ok. Elle n'avait pas détecté.
Non, alors je pense que ce qu'elle appréciait chez moi, c'était... c'est pour qu'on en... Je dis ça maintenant parce qu'on a discuté longuement après que j'ai fait mon coming out. C'était que j'étais pas comme les autres. C'est pour ça que ça fait sacrément écho entre, avec oui, votre histoire. Sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, moi aussi, j'étais un garçon plutôt sage, peu de rébellion, enfin, voilà.
Vous l'avez épousée, cette femme?
Oui.
On l'a compris. Vous êtes senti comment dans cette vie d'homme marié, papa, puisque vous avez eu des enfants?
Très, très, très épanoui. Moi, j'ai beaucoup de chance que j'ai été heureux dans ma vie. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, et ça a été une période de ma vie très belle. Et maintenant, c'est pareil, j'ai pris un autre livre. Et c'est exactement la même chose, en fait.
Votre sexualité est épanouie aussi avec votre femme, ou vous aviez enfoui certaines attirances, ou pas du tout?
Ma sexualité était pas, enfin, pas, je pense pas appeler épanouie par rapport à ce que, par rapport à ce que
vous
je
maintenant,
vis maintenant.
Vous êtes plus heureux.
Mais ça nous convenait à tous les deux. On avait construit notre couple sur autre chose que la sexualité.
Oui, c'est ça. C'était une partenaire de vie, et voilà.
Oui, tout à fait. On était très complices.
Bien
on faisait
sûr.
Tout
vous
ensemble. Avec enfin, voilà, on partageait plein de choses.
Eh ben, vous n'aviez pas de barre.
Non, ça c'est juste après mon coming out.
Alors justement, à quel moment les choses ont commencé à devenir moins sereines et tout ça est un petit peu ressorti au point qu'il allait falloir la vivre, cette identité sexuelle?
Alors moi, ça s'est joué sur pas grand-chose finalement. Un jour, j'ai eu une grosse panne informatique.
Ouais.
Et sur mon ordinateur, j'avais tout mon travail. Et en fait, j'ai demandé à mon beau-frère s'il pouvait me récupérer mes données parce que j'étais vraiment bien embêté. Il s'avère que ça commençait quand même à me trotter dans la tête. Je devais avoir 35 ans à peu près. Et je commençais à aller sur des sites de rencontres entre hommes. Et j'avais téléchargé quelques photos de beaux jeunes hommes qui me plaisaient plutôt bien. Et bien sûr, lorsque mon beau-frère a récupéré les données... Voilà. Donc, comme c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien aussi, eh ben, il m'a appelé. Enfin, il a aussi appelé sa sœur, hein, ma femme.
Et puis, il a d'abord appelé sa sœur ou d'abord vous, parce que c'est important?
D'abord moi, puisque c'est moi qui en ai parlé à ma femme en priorité. Et ensuite, il a appelé sa sœur. Mais donc, du coup, moi, j'en ai forcément parlé avec ma femme. Et là, ça a été une période un peu plus compliquée, où on a passé des soirées, voire des nuits à parler pendant des heures et des heures et des heures.
Ça a été une révélation pour elle? Elle se doutait de quelque chose ou pas? Est-ce que, comme Sabine, elle avait senti quelque chose?
Je pense pas que ce soit, que ça a été complètement une révélation. Ça l'a surprise, certes, mais je pense pas totalement non plus. Elle devait ressentir des choses. On n'avait pas... comme je disais, notre couple, il n'était pas
basé
sur la sexualité. On avait plein d'autres choses. On ressemblait pas vraiment au couple dans nos relations hommes-femmes, au couple qu'on côtoyait autour. Donc, ça l'a pas complètement surprise non plus.
Et elle a réagi comment, mal ou bien?
Très bien, très bien. Elle m'a accompagné en fait, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai commencé à aller de moins en moins bien. Par contre,
oui.
J'ai fait une dépression assez sévère. Et elle m'a vraiment accompagné, porté à bout de bras, poussé à aller voir un psy. Donc, j'ai fait une psychothérapie qui a duré un petit peu et qui m'a permis d'accepter et un jour de dire en fait je suis homosexuel.
Vous êtes ému quand vous parlez de l'aide que vous a apporté votre femme à ce moment difficile?
Ben oui, parce que c'est vraiment pas quelque chose auquel a priori on s'attend. Voilà.
Aussi vous êtes ému?
Ouais.
Alors?
Ouais, parce que c'est... Bon, on va pleurer un petit coup. C'est vrai que l'aide, ça se passe pas si facilement que ça. Quand même, il y a des moments de turbulence. Il y a des moments où on se retrouve seul. À un moment, on se demande si on a fait le choix. C'est après l'avoir fait. Et c'est ce que tu dis, c'est superbe. Sabine m'a dit un jour, ouf, je me suis retrouvé seul. J'étais parti avec quelqu'un qui m'a laissé tomber très rapidement. Elle me dit, je voudrais pouvoir t'aider comme tu m'as aidé aux accouchements. J'ai assisté aux 3 accouchements d'une façon assez intensive. Et voilà, moi, ça va. Bon, c'est tout.
Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle ne pouvait pas vraiment se déplacer, mais elle serait venue de la même manière.
Ouais. Et de quelle manière, vous dites, elle vous a porté à bout de bras et elle vous a aidé à accoucher de l'homme que vous êtes aujourd'hui, assumé?
D'abord parce qu'elle ne m'a jamais jugé. Jamais. Et puis parce que elle a accepté au fur et à mesure que la vie avançait et que je faisais des choix, elle a accepté. Comment dirais-je, dans toute cette période, j'avais accepté de dire je suis homosexuel, donc je m'acceptais tel que j'étais, mais pourtant je vivais toujours dans ce couple, je vivais toujours avec ma femme, mes enfants dans la maison.
Vous aussi, il y a eu cette période où vous êtes resté.
Et il y a un moment où ça devient insupportable, pas insupportable parce qu'on n'aime plus ces personnes-là, mais insupportable parce que finalement on n'est plus en accord avec ce qu'on est. Et il fallait faire quelque chose. Donc, alors moi, la seule solution que j'ai trouvée à l'époque, c'était de rentrer dans une association. Il y avait une association d'homosexuels qui faisait du VTT dans ma région, et j'y suis allé. Et je me suis senti bien.
C'est-à-dire, à votre place.
Voilà, parce que je pouvais dire qui j'étais, je pouvais discuter de ce que j'étais. Puis c'était la première fois que je voyais deux femmes ou deux hommes s'embrasser, et je vous jure que c'était vraiment, enfin, un soulagement, vraiment. Et ce moment-là, je suis rentré le soir à la maison, j'étais bien. Et on a continué à en discuter de cette manière-là, mais moi j'étais devenu apaisé, je savais qui j'étais.
À quel moment vous avez décidé de partir de chez vous? Parce qu'on a bien compris que ça impliquait, voilà, vous disiez Denis, briser une famille, briser le cocon familial, la cellule familiale.
Oui, tout à fait. Et du coup, c'est ça qui fait hésiter. Et en même temps, dans cette association, j'ai rencontré un homme dont je suis tombé très amoureux. Je pouvais pas vivre avec cet homme-là et puis être avec ma femme. Donc, on a pris la décision de se séparer. Enfin, j'ai surtout pris la décision, pour être honnête, de partir. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu annoncer aux enfants, qui n'étaient pas encore au courant.
Je vais poser aussi la question à Denis. Comment vous l'avez annoncé à vos enfants? Vous deux ensemble?
Nous deux ensemble.
Tout seul,
oui, parce que on a toujours eu l'habitude, et on l'a encore, quand il y a des choses importantes à dire aux enfants, on le fait ensemble. Et puis, on leur a dit simplement que je partais de la maison parce que j'avais rencontré un homme. Même pour en rediscuter avec les enfants maintenant, ce qui ressort, c'est que c'est pas le fait que je parte avec un homme qui les a dérangés, parce que voilà,
c'est ça,
moi j'ai
divorce,
pas changé en fait, mais c'était le fait qu'on se sépare.
La séparation, vous aussi, Denis, c'est
ça? Oui. Alors moi, quand je l'ai abordé, d'abord, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, on va, voilà, vous avez vu que papa maintenant, des fois, il n'était pas à la maison, etc. Donc papa, il peut plus aimer maman avec son sexe. Il l'aime avec son cœur, mais il peut plus l'aimer avec son sexe. Voilà. Alors, on va se séparer. On sera plus monsieur et madame, mais on s'appellera toujours papa et maman. Et l'aîné m'a dit à l'époque, oui, t'es homosexuel. Où est le problème? Je dis, il n'y en a pas. Puis après, il y a eu Charlotte. Alors, Charlotte est une jeune fille, en plus, plus petite, et je me souviens. Elle a pleuré, et elle m'a dit, je veux pas que tu deviennes une femme. Et vous voyez, ce cliché. Alors, il y a le gay pride, tout ça, les drag queens, on peut rigoler. Mais des fois, c'est un peu trop cliché, et les enfants,
ils ont tendance à,
voilà. C'était ça. Et puis après, ça s'est, avec le, au fil, et le dernier, ça a été, il racontera. Jean-Marc, il racontera.
Mais c'est intéressant ce qu'elle vous a dit votre fille, quand même. C'est-à-dire, c'est pas simplement un cliché, c'est-à-dire ce sont des questions légitimes aussi. Est-ce que tu continueras d'être mon père?
Alors, il y a ça
quand,
aussi.
C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aura pas une transformation? Vous parlez d'un cliché, mais là, c'est la question d'un enfant, donc ça va au-delà.
Et je pense que plus tard, il y a eu, elle a eu des moments... Hello, les blas. Il y a eu des moments,
enfants.
Un moment de l'adolescence un petit peu plus compliqué. Sabine m'a dit, tu sais, il faut que tu parles à Charlotte, montre que tu l'aimes. Et je pense peut-être que dans la tête d'une jeune fille, et ça c'est moi qui l'interprète, vu que papa aime les hommes, moi qui vais devenir une femme, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Parce que je suis
parce
une
que
femme,
je suis
et
une
comme
femme,
il n'aime pas les femmes.
On va se mettre nous dans la tête de Charlotte, mais c'est elle qui va nous expliquer ce qu'il y a dedans. On accueille votre fille justement, Denis et Sabine.
Bonjour Charlotte.
Elle est belle, hein? Elle est belle, votre fille, hein?
Comme sa mère.
Comme sa mère, exactement. Très bonne réponse. Excellente réponse.
On n'a pas répété, hein?
Vous aviez 8 ans. Aujourd'hui, vous en avez 28?
31.
31.
On 11 ans et 20 ans d'expérience.
Oui. Vous vous souvenez encore précisément de ce jour où vos parents vous ont annoncé... cette séparation, enfin cette nouvelle qui allait impliquer la séparation de vos parents?
La séparation, non. Mais l'annonce de l'homosexualité de mon père, oui.
Et c'est un souvenir libérateur ou douloureux pour vous?
Ni l'un ni l'autre. Je sais que pour mon père, ça a été compliqué de me l'annoncer. Ouais. Et il a pleuré, c'est pour ça que moi j'ai pleuré, mais... J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Mais l'homosexualité, je savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai pleuré, mais voilà.
Sans vraiment comprendre ce que ça impliquait.
Parce que Denis mettait le doigt sur le fait que plus tard, en revanche, ça avait pu vous poser plus de questions à des périodes plus difficiles de l'adolescence. Parce qu'en effet, voilà, moi je suis une femme, donc est-ce que mon papa m'aime, même si je suis une femme? C'est une question qui vous a traversé, parce qu'il l'analyse comme ça, lui.
On a eu beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse quand on était petit, que ce soit moi ou mes frères. Après, j'ai toujours considéré que j'étais un peu la chouchoute, peut-être parce que j'étais la seule fille. Mais non, je me souviens pas avoir eu cette question. Non, on était très bien entourés et vraiment, vraiment bien aimés.
Donc, à aucun moment vous en avez souffert ou vous avez été mal à l'aise. Finalement, vous nous en parlez presque comme d'un non-événement. Un jour, j'ai appris que mon papa était gay. Point. C'est tout.
J'ai pas... Peut-être hein, qu'il y a eu des traumatismes, mais c'était sûrement inconscient ou... Non, ça a paru normal rapidement.
Et les copains, justement, comment ils ont réagi quand vous leur racontiez l'histoire familiale?
Alors, les copains, au début, on n'en parlait pas. C'est vrai qu'au début, à l'école, on n'en parlait pas. Au collège, non plus... Fin du collège, j'ai annoncé aux amis proches l'homosexualité de mon père. C'est bien passé. Lycée, j'ai eu mon premier vrai petit copain. J'ai fini par lui annoncer puisqu'il venait à la maison. C'est bien passé. Bon, bah, on va continuer à le dire hein, puisque ça passe bien. Et en plus, ça devenait presque original. Donc, je me démarquais.
Ah oui, c'est ça, en plus. Ça avait un peu, c'était la classe, quoi.
Voilà.
Nous, on avait une famille un peu différente.
C'est ça.
Oui. Et aujourd'hui, c'est rentré dans la norme quand vous en parlez. Vous avez l'impression que les mentalités ont évolué, vous qui en êtes le premier témoin.
Je suis certaine que oui, mais je suis encore plus fière de le dire parce que bah, il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui peuvent se dire être enfant d'un homosexuel. Enfin voilà.
Et surtout que tout le monde soit réuni sur ce plateau.
Oui.
C'est ça, la force aussi de votre magnifique famille. Oui.
On a une complicité qui est très drôle parce que aujourd'hui, par rapport aux enfants, on leur a dit à un moment, vous n'en parlez pas trop parce que l'aîné Benjamin, il s'est fait traiter fils de.
Ouais. Hein,
donc les gosses entre eux sont durs en plus.
Ouais, hein.
Et puis après, des fois, quand Charlotte, elle nous présente à des amis avec Jean-Marc, et ça, j'adore. Alors, Charlotte dit, je vous présente mon père et son mari. Et là, on voit les gens, il y a une sorte de...
Un petit temps de latence.
Voilà.
OK, d'accord.
Ça, c'est fait. Voilà, mais ça, c'est drôle. Mais c'est un jeu hein, qu'on fait hein, entre nous.
Alors, vous êtes partie de la maison, vous avez un petit peu papillonné avant de rencontrer
oui.
Le grand amour.
Eh oui, j'ai appliqué la règle que nous avait donnée ma grand-mère, feu ma grand-mère.
C'est quoi cette règle, j'ai peur.
Elle disait, elle l'avait dit à Charlotte quand elle était ado, ma petite fille, les hommes, c'est comme les melons, faut en tâter plusieurs, on en trouver un bon. C'est une vue de l'esprit.
On peut dire la même chose pour les femmes en même temps.
Oui, voilà, donc j'ai dit, tiens, bah, allons voir un petit peu.
Elle vous a toujours soutenu, votre grand-mère, en fait.
Ah, ma grand-mère, oui, le jour où je lui ai annoncé... Alors, je vais être trop bavard, mais il faut savoir que ma grand-mère nous a mariés avec Sabine, elle était adjointe au maire à l'époque.
Ouais.
Voilà. Et après, bon, elle voit que le couple est un petit peu distordu, il y a des dissonances, et je lui dis, écoute, faut que je t'annonce, on va se séparer. Ah, je suis triste, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Quelques jours après, je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, on se sépare parce que moi, j'aime les hommes. Elle me fait, ah, oh, c'est que ça. Ah, oh, j'étais tellement inquiète. Ah, oh, je suis soulagée. Voilà. Voilà. Donc, bah oui, j'ai appliqué la règle de la grand-mère. Et puis, après, bon, quelques rencontres qui ont compté. Et bah, j'ai rencontré ce jeune homme.
Vous êtes rencontré où, Jean-Marc?
On s'est rencontrés par le Minitel.
Oui, on est des vieux.
Oh, ça ne nous rajeunit pas, ça, les gars.
Ça ne nous rajeunit pas. 36-15, code qui n'en veut. Voilà.
C'est vrai?
Oui.
Ah, c'est drôle.
Ah, c'était...
C'est en Iran.
C'est en Iran, ça. Ouais.
Vous aviez envie d'une histoire sérieuse? Vous étiez prêt pour une histoire sérieuse?
Franchement, au départ...
Au départ, non, ça s'est trouvé comme ça.
C'était pour se faire du bien.
Ouais.
Voilà, et puis... voilà, petit à petit, on se revoit, et on se revoit, puis il découvre que... Ben, il découvre, il va vous le dire. J'ai trop parlé.
Jean-Marc, vous aviez quelle histoire avec votre homosexualité? Vous l'aviez toujours assumée?
Oui, moi, je me suis toujours senti homosexuel dès l'âge de 8 ans, donc...
J'ai été scout comme...
C'est un nid.
Donc, non, pas forcément, mais... Non, ça m'a jamais posé de problème.
Vous n'étiez pas marié, pas d'enfant.
J'étais pas marié, pas d'enfant, voilà, oui. Bon, on n'en parlait pas à la maison, mais je pense que mes parents l'ont toujours su.
Ça a changé quelque chose pour vous, le fait qu'il ait eu une femme avant? Ça vous a un peu perturbé?
Non, pas du tout.
Famille, pas du tout.
Non. Bon, puis les enfants, bah, je les ai découverts un week-end, puisque à l'époque, il avait les enfants un week-end sur deux. Et la première fois, il y avait que les deux garçons, parce que Charlotte avait un gala de danse. Et puis 15 jours après, on est allé chercher les trois enfants chez Sabine, qui habitait à une quinzaine de kilomètres de
la maison.
Et puis en rentrant dans la voiture, Charlotte dit à ses frères, « Qui c'est ?» Alors, le dernier qui avait 9 ans, il dit, « Bah, c'est le nouveau mari de papa. » Donc
toute
voilà,
évidence.
Ça s'est fait comme ça avec les enfants.
Vous l'avez bien accepté, Charlotte, dès le départ? Ah, vous voyez qu'il y a eu des choses quand même un peu plus à rebondissement.
Oui. Non, le problème, c'était mon caractère. C'était pas,
c'était pas le fait
que ce soit un homme, une femme, c'était mon caractère.
C'était vos caractères à tous les deux qu'il a fallu se rencontrer, quoi.
Oui.
C'est ça.
Oui, parce que Jean-Marc n'est pas un bavard.
Non,
mais
je ne suis pas bavard.
Bon, de toute façon, il n'aurait pas le temps de parler avec nous, déjà. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, l'échange n'était pas... Puis toi, tu as eu une période, comme beaucoup d'ados, période un petit peu mouvementée. Hein, on va appeler ça comme ça.
Oui.
Disons qu'elle a du caractère.
Voilà. En plus.
Je tiens de mon père, on va dire.
Hein, vous disputiez? Il y avait des clashs entre vous deux?
Oui. Entre
Jean-Marc et...
Nous deux, non, pas trop,
non.
Charlotte. Mais entre avec mon papa. Père et moi, on en a eu.
Beaucoup, oui. Comment vous l'appelez, Jean-Marc, d'ailleurs?
Jean-Marc.
Il n'y a pas de petit nom particulier?
Non, bah maintenant qu'ils sont mariés, si, je présente... Bah on me dit souvent, ah, bah c'est ton beau-papa.
Oui.
Oui.
Ah oui, c'est ton beau-papa, ouais. Comment ce mariage... Enfin, qui a eu envie déjà d'officialiser les choses entre vous deux?
C'est un ami commun.
Un ami commun, un copain d'école.
Un ami iranien qui, comme tout le monde a entendu parler du mariage gay, il nous a, pendant un an, il nous dit « Mais alors, pourquoi vous vous mariez pas depuis le temps que vous connaissez ?» Et puis, ça s'est fait d'une façon tout à fait inattendue.
Qui a demandé en mariage l'autre?
À Noël 2013, nous étions chez mes parents et en plein milieu du repas, Denis s'est levé et a dit « Je vous annonce une grande nouvelle, on va se marier ».
Vous n'étiez pas au courant.
Je ne sais plus comment il l'a dit exactement.
Non, j'ai dit à mamie, « Mamie, j'ai une annonce à vous faire, acceptez-vous de me donner la main de votre fils ?»
Ah, c'est drôle. Elle a accepté?
Ah ouais, ouais.
J'étais le premier surpris. Parce que...
Oui, vous n'en aviez pas parlé du tout.
Non, vous me disiez que dans votre famille, on n'en parlait pas, justement.
Non, dans la famille, on n'en parlait pas.
Non.
Et elle a dit oui.
Oui, bah, elle savait quand même.
Ah, bah, évidemment qu'elle savait.
Elle était enchantée. Ouais,
voilà. Et ensuite, ça s'est passé chez ma mère.
Oui, une semaine après, au
début. T'étais là.
J'ai fait la même chose.
Alors, il a fallu que je lui dise, vas-y.
Au repas du Nouvel An, voilà.
Et là, Sabine était au courant.
Oui, mais j'étais là.
Elle était là.
Mais ça vous a... Oui, parce que je vois toujours sa famille et
oui, bah, voilà. ça m'étonnerait
donc
pas.
C'était un repas de Noël. Ben cette année-là, j'étais là.
Et c'est là que, en l'annonçant, tu étais assis à ma droite. J'oublierai pas. Tu m'as dit dans le creux de l'oreille.
Je serais bien ton témoin si tu veux bien.
Sérieux?
Ouais.
Vous avez été leur témoin de mariage?
Oui.
Alors là, moi, je dis pas pour. Ah.
Et Charlotte également.
Charlotte et Sabine.
Vos deux témoins de mariage.
Les deux femmes de ma vie. Les deux femmes de ma vie témoins de mon mariage, quand même. C'est
Quelle belle histoire.
Tiens, voilà.
Quelle magnifique histoire. Quelle belle veste.
Il m'a interdit de la mettre aujourd'hui.
Et ça reste finalement un grand moment de communion familiale. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour du mariage de Jean-Marc et Denis?
Ah, j'étais très excitée, très contente d'être là et très, très honorée des... Et très contente de pouvoir promouvoir ce genre d'événement.
Très heureuse pour eux aussi.
Ah oui?
Elle est intervenue, tu te souviens, elle a fait un petit discours sur le bateau, Sabine.
Sur le bateau? Oui. Oui, parce que après la cérémonie, ils avaient organisé leur mariage sur les bateaux mouches. On a passé l'après-midi sur la Seine. Et donc, oui, j'ai pris le micro à un moment pour dire que j'étais effectivement très honorée qu'il ait accepté que je sois son témoin de mariage et que ça me faisait très plaisir de participer à la construction de leur projet et de leur projet de vie. Mmh. Voilà, et que je souhaitais sincèrement que ce genre de choses se réalise de plus en plus et de façon de plus en plus normale, quoi.
Et tu as fini par une très belle phrase. Ah. Ouais. Tu as dit, et je voudrais tellement que le mot tolérance n'ait plus à exister.
Vous avez refait votre vie, vous, Savine ?
J'ai rencontré...
Alors, ne regardez pas votre famille qui trahit la réponse. Qui dit, oh là 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 là. La cata, c'est la cata.
Oui, j'ai refait ma vie, je me suis remariée, ça a duré 3 ans. Et je lui ai dit qu'il pouvait rester chez elle.
D'accord. Chez elle ? Hmm ? J'ai pas compris.
Chez sa femme. Bah, chez celle qui était en cours. Chez sa maîtresse en cours.
D'accord, j'ai compris. Très bien.
C'est un autre sujet.
C'est encore un autre sujet où vous viendrez pour une autre émission nous raconter le volet 2. Mais on vous souhaite... Aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie ?
Non.
On vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous rendra autant d'amour que vous distribuez autour de vous. Mais je comprends que vous soyez un peu vacciné.
Je m'occupe de moi maintenant.
Voilà, je comprends que vous soyez un petit peu vacciné. Vous, Jeff, vos relations, comment elles ont évolué avec votre épouse quand vous êtes parti déjà de la maison ?
Ben moi, ça a été un peu compliqué en fait. Donc je suis.
Vous aviez deux vies en fait. Hein.
Ben là, je suis parti de la maison pour vivre avec mon compagnon. Et puis.
Rencontré au VTT, c'est lui.
Rencontré au VTT, oui, voilà. Et puis, ben en fait, quelques mois après, ma femme, puisqu'on était toujours pas séparés, enfin pas divorcés, ma femme m'a appelé en annonçant qu'elle avait un cancer du sang. Donc ça, grosse claque. D'abord, je l'ai pris aussi comme... Enfin, je me suis senti très, très coupable parce que bah, c'est quand même une partie très féminine, c'est tout symbolique. Et je me suis dit, bah, ça y est, voilà, je pars de la maison pour vivre avec un homme. Et derrière, elle contracte le cancer. C'était, ça a été un peu dur. Donc, j'ai pris la décision de l'accompagner dans tous les moments de la maladie.
Et elle vous avait tellement accompagné, vous.
Oui, c'était...
C'était un bon retour des choses.
Je vais dire un juste retour des choses, mais à la limite, je ne l'ai pas vécu comme ça. C'était...
Une équipe. Vous étiez une équipe.
Oui, on a toujours fonctionné de cette manière-là. Et du coup, bah, je l'ai accompagné étape après étape. Opération, chimio, radiothérapie. À chaque fois, on organisait un événement un peu particulier. Et puis, ben, tout ce temps-là, mon compagnon à côté, on a eu tendance à s'éloigner l'un de l'autre. Et puis, en définitive, ben, j'ai rompu avec lui. Je suis retourné vivre en famille. Alors, je vous la fais courte, hein, parce que ça a duré sur des mois, des années. Et voilà, on se sépare quelques mois, enfin quelques semaines, un mois ou deux après, je sais plus. Il revient frapper à ma porte, j'allais dire, et puis ben, j'étais toujours amoureux de lui, clairement. Et on a commencé à vivre une vie entre deux. C'est-à-dire que moi, je vivais dans la maison familiale avec ma femme et mes enfants, et régulièrement, j'allais voir mon compagnon. Et on a essayé de vivre comme ça. Bon an, mal an, comme on pouvait. Moi, j'étais vraiment perdu entre les deux. Je savais plus où j'en étais de l'un et de l'autre. Parce que je l'aimais lui en tant qu'homme. Et je l'aimais elle en tant que... Je peux pas dire en tant que femme, mais en tant que personne qui compte énormément avec tout l'amour que je pouvais lui apporter.
En tant que personne.
En tant que compagne.
Oui. Et du coup, ça a été une période assez compliquée parce que je savais plus où j'en étais de ces deux personnes. Et je perds un peu le fil de mon histoire.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en fait, Jeff, surtout ?
Ah, aujourd'hui, bah, il est arrivé un moment où ce compagnon a fini par partir définitivement, ce qui a été, qui a simplifié un peu les choses. Je suis resté vivre à la maison, et puis, bah, on a continué à vivre comme un couple hétéronormé. Sauf que on avait chacun sa chambre, quoi. Et moi, j'allais vivre ma vie. Pareil, j'ai testé pas mal de melons. Et puis, je n'en pouvais plus, quoi.
Si j'assume. Beaucoup des melons, ça va rester.
Et puis, j'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus. En fait, j'étais bien dans mon cocon familial, mais j'en pouvais plus dans ma vie. Parce que je n'étais pas la bonne personne. Je ne pouvais plus vivre. Je ne pouvais pas vivre ce que j'étais.
Il y a une vraie dualité en vous. C'est impossible de s'épanouir.
Exactement.
Comme ça.
Alors j'ai refait la même chose que la première fois. J'ai regardé l'annuaire. J'ai trouvé une association sur
quel sport ?
Sur Brest. Alors, cette fois-ci, c'est pas un sport. C'est une association qui s'appelle Divergent et qui accueille plein de gens. On fait de l'accueil. Voilà. Et du coup, je suis arrivé là. Et puis j'aurais raconté mon histoire. J'ai rencontré des gens, enfin, avec qui le courant est bien passé. Et puis je suis assez, j'aime bien m'engager. Et donc, bah, du coup, je suis rentré dans l'association. Et puis voilà.
Vous êtes impliqué.
Et je me suis impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et vous avez rencontré le bon melon.
Et j'ai rencontré le bon melon.
On en est, j'ai envie de vous dire. On n'en est plus à ça près.
Je ne serais pas content du tout.
L'homme de votre vie.
Oui, bah oui, l'homme de ma vie, j'espère, oui. Franche, ouais, je l'ai rencontré dans cette association. Et voilà.
Alors, je vous propose qu'on fasse sa connaissance à Fanch, justement, puisque notre équipe est allée à votre rencontre il y a quelques jours pour faire sa connaissance, pour parler d'amour, pour parler d'avenir, pour parler d'emménagement. On va rencontrer vos enfants et donc celui aujourd'hui qui partage votre vie, Jeff. Regardez.
Et moi, j'étais au Beaux-Arts, là, dans la rue Prudhon.
Ah oui, donc c'est ton univers ici.
Voilà, mais quand j'étais le petit. Vous avez plein de choses.
Ouais, on rentre voir.
À l'époque où j'ai rencontré Jeff, en fait, j'étais séparé de ma femme depuis bien longtemps déjà. Je vivais seul avec mes enfants.
Regarde ça, c'est vachement. Tu as la maison de nos rêves.
Et arrivé donc du coup dans une association où je milite. C'était assez drôle puisqu'il s'est présenté en disant qu'il avait des enfants, croyant que c'était très original. Et puis en fait tout le monde lui a répondu qu'on en avait tous. Donc c'était on est parti un peu de cet éclat de rire. Après on a eu l'occasion de discuter de plein de choses et de se rapprocher au fur et à mesure comme ça.
Alors Marc là-bas aussi, regarde, t'as vu la maison ?
Ouais.
En pierre, je suis sûr qu'elle est au sud. Il y a des chambres pour tout le monde.
On s'amuse à regarder des maisons, on s'amuse à faire des projets ou à voilà. Mais on n'a aucune envie, je crois, de précipiter les choses parce qu'en fait, on implique d'autres personnes et ça, c'est très important, je crois, autant pour lui que pour moi.
On est combien ? On est 4 ?
Bah oui, 4. 4 comme 2 plus 2.
Du coup, notre vie de famille, ça se passe bien. Les liens que j'ai avec les enfants de Jeff, bah, c'est des liens chaleureux, c'est des liens rigolos, voilà, qui se construisent. Ça a été simple dès le départ.
Et puis, bah, moi, je me mets là-bas, tranquillement. Et puis, Fanch, tiens, tu fais le service parce que t'es très doué pour ça.
Merci.
Bah, ouais.
Quand je vois mon père avec Fanch, bah, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Enfin, ils ont une complicité, ils sont mignons. Je pense qu'il a bien fait de faire son coming out. Bah, ça le libère d'un poids assez dur.
Et du coup, t'as avancé sur ton projet d'ingénieur, là ou...
Je ne vais pas forcément faire ingénieur. Enfin, je sais pas, mais déjà, je vais aller rester dedans, on va voir après.
Finalement, c'est plus Malo que je vois le plus souvent. On cohabite, on se croise, on discute, on se fait des petites blagues. On se connaît pas encore si bien que ça.
C'est vrai que c'était assez compliqué au début. Je me demandais ce qu'il allait être dans ma vie. Mais ouais, maintenant, je pense que je peux le considérer comme un futur beau-père, ouais.
T'as pas ton truc, hein ? Ouais, dégage. Ouais. Moi, je pense que ça correspond à peu près ce que c'est que le gloubi-boulga.
Et en fait...
Je suis contente de voir mon père avec quelqu'un comme ça. Je pense qu'ils partagent beaucoup de choses et ils sont très proches, très tendres l'un envers l'autre tout le temps. C'est assez agréable de les voir comme ça. C'est assez rassurant.
Regardez un rayon soleil, là, qui donne juste sur la plage de Mouton.
Ah, c'est trop joli.
Ouais.
Ah, les mecs, c'est pas sur les rochers là-bas.
T'as vu le gros nuage noir qui rentre sur la mer ?
C'est pas là qu'il y a une merde, tu vois.
Tant qu'il passe sur la mer, c'est bon.
Je me suis beaucoup inquiétée pour mon père pendant pas mal d'années, parce que même avec le coming out, ça a été compliqué, les séparations d'avec ma mère. Il y a des fois où j'ai eu des doutes, où je me suis dit ça va toujours être comme ça, il va toujours être dans cette espèce d'entre-deux où il est heureux avec ma mère, mais il lui manque un truc avec elle. Et il est heureux sans ma mère, mais il lui manque toujours la relation qu'ils avaient. Tu sais, sur le coup, moi, je t'en ai voulu, je t'en ai jamais vraiment parlé, je pense, sur le moment, parce que c'était compliqué pour moi de te dire ça, parce que j'assumais pas. Mais je t'en ai beaucoup voulu de partir, de revenir, tu vois, de pas avoir pris une décision fixe et de pas t'y tenir.
C'est clair que pour un enfant, c'était pas du tout sécure, hein, comme situation, et c'est pas une grande fierté non plus, c'est pas une grande réussite éducative, c'est sûr, mais en même temps, à cette époque-là, j'étais vraiment pas capable de faire autrement, quoi.
Je pense que cette fois, c'est la bonne, et moi, ce que j'espère, c'est que ce soit l'homme de ta vie, que vous continuiez votre vie ensemble, que vous avanciez dans votre relation. Je te souhaite qu'une chose, c'est que ça continue comme ça.
Quand je m'avais dit ne pleure pas, c'est dur. Hein.
Alexandra, est-ce qu'il se passe quelque chose autour de la quarantaine? Puisque vous, ça a tous les deux été autour de 30-40 ans, ce coming out sur le tard. Il se passe quelque chose? Je suis en plein dedans, dites-moi que oui.
Ben, ce qui se passe surtout, c'est qu'à 40 ans, on se connaît déjà mieux. Ouais. Donc on s'est affranchi quand même de pas mal de préjugés familiaux. Si on a cheminé, on s'est débarrassé quand même de certains poids, hein, on va dire, que ce soit culturel, religieux. Pas tous, hein, bien sûr, mais quand il y a ces interrogations-là, on essaye de cheminer, on essaye d'avancer. Et puis il y a une maturité, certes.
On est prêt à assumer qui on est vraiment.
Voilà, et, pour certains, oui. Pas pour tout le monde, bien sûr. Ça peut durer toute une vie. Il y a des fois des personnes qui traversent toute une vie sans pouvoir effectivement assumer ces tendances ou ces attirances.
Je vous dis ça, c'est évidemment pas par hasard, parce que je voudrais qu'on accueille maintenant Émilie et Jean-Loup qui sont dans le public. Et pour les deux, c'est à 40 ans qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Venez ici tous les deux. S'il vous plaît. Bonjour à tous les deux. Bonjour Émilie, bonjour Jean-Loup.
Bonjour.
Vous, on peut vraiment dire à tous les deux que votre coming out vous est tombé dessus.
C'est vraiment ça en tout cas en ce qui me concerne. C'est vrai que ça m'est tombé dessus. C'est vraiment le mot qu'il faut employer. Je m'y attendais pas et surtout, j'y avais jamais spécialement pensé au préalable. Donc, c'est tombé d'un coup.
Vous étiez engagée? Vous aviez quelqu'un dans votre vie, Émilie?
Alors oui, j'étais mariée et ça faisait plus de 10 ans que j'étais avec un homme, avec 3 enfants. Et encore...
3 enfants, mariée, il y a un truc. Hein.
Enfin, 2 enfants, pardon. 2 enfants. Coup, sous le coup de l'émotion, j'en invente un troisième. Ça sous-entend aussi que j'aurais aussi aimé en avoir un troisième. Mais oui, voilà, 13 ans de mariage et encore une fois, aucun regret.
En couple et heureuse.
Heureuse, oui.
Et heureuse. Et vous, Jean-Loup, vous en étiez où?
Moi, un an avant, c'est même plutôt plus rapide que ça, c'est 48 heures avant.
Vous ne saviez pas que vous étiez potentiellement
absolument
homosexuel?
Pas. Absolument pas, ça m'est tombé vraiment à la suite d'une soirée un peu bizarre.
Et vous allez me raconter, parce que dit comme bizarre, ça, ça me donne
un petit peu arrosé, on va dire. Et,
voilà, un petit vous peu étiez arrosé. En couple?
Non, alors on s'était séparé avec mon ex-épouse depuis un certain temps, depuis à peu près un peu plus d'un an, un an et demi. J'avais eu une aventure féminine entre-temps. Il faut dire que moi, mon ex-épouse avait trouvé quelqu'un d'autre, donc je suis parti. J'ai vécu avec une femme pendant quelques temps, et puis je suis remonté sur Paris, et en étant à Paris, bon, j'ai rencontré des amis, des couples d'amis, et il y a eu une soirée où...
Alors, cette soirée, j'ai pas envie d'attendre, en fait. Je suis trop curieuse. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée? Vous n'aviez aucun soupçon d'une identité sexuelle, d'une attirance vers les hommes?
Si vous voulez, moi, je pense un peu plus ancien que Denis, c'est que je suis né en 50, et moi, dans ma famille, le seul homosexuel qu'on connaissait, et que certains certainement ici ne connaissent même pas de nom, c'était Jacques Chazot, parce qu'on en parlait dans la famille, mais c'était à peu près le seul que je connaissais, j'avais aucune idée, en plus je me suis marié très jeune, je me suis marié en 71, donc j'avais tout juste 21 ans, et quand on avait couché, à mon époque, on épousait. Donc oui. Alors je veux pas dire par là, on a eu trois adorables enfants avec mon ex-épouse. Dire que je lui ai fait des enfants sans amour serait faux, parce qu'on s'est aimé vraiment. Puis après il y a eu la lassitude du temps, elle a rencontré quelqu'un d'autre, on s'est séparés, donc j'ai rencontré moi aussi quelqu'un d'autre. Et puis je suis remonté sur Paris, donc vraiment l'idée ne me...
C'était vous avez pas même pas mon effleuré, univers. Ça n'existait pas en fait.
Non, ça n'existait pas.
Vous n'y pensiez même non, pas. Non.
Et dans la même soirée, j'ai rencontré ce garçon, je suis allé dans le Marais, dans un bar qui était célèbre, où là j'avais l'impression d'être sur une totale autre planète.
C'est la première fois que vous alliez dans un établissement gay.
Dans un établissement gay.
Qui vous avait amené là-bas, Jean-Loup?
Bah lui, ce garçon que j'avais rencontré
vous
à ce dîner.
Vous l'avez rencontré à un dîner comme ça?
Il m'a proposé de me raccompagner parce que j'habitais à ce moment-là à Maison Alfort et qu'il n'y avait plus de métro. Et donc, et lui habitait dans le Marais, et donc m'a proposé de me raccompagner en me disant, on va aller voir un pot.
Innocemment.
Ah, puis moi, je suis quelqu'un qui parle librement, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons-y.
Vous n'avez même pas pensé à ce qui pourrait se passer. Il ne vous draguait pas.
Non, vraiment pas. Et puis bon, j'avoue que la soirée s'était bien déroulée. Et puis là, il m'a dit, bon, moi aussi, j'ai un petit coup dans le nez, il est peut-être un peu tard pour te raccompagner en voiture à Maison Alfort. Donc il m'a proposé de dormir chez lui, et il habitait rue des Archives.
Et là, vous vous êtes douté.
Ah bah là oui, il y a un moment où tout de même oui.
Parce que là quand même, ça si. Fait beaucoup Jean-Loup.
Si, il y a un moment où je me suis dit, je sais pas, mais...
Mais vous êtes suivi, vous avez suivi vous, hein.
Ah ouais, moi je suis, moi il n'y a pas de souci. J'avance et donc, mais effectivement donc, la soirée s'est passée, la nuit s'est passée, et le lendemain matin, je me suis précipité chez mon médecin.
Attendez, il s'est passé, ah oui, attends, s'est passé, vous êtes allé beaucoup trop passé. Vite là.
Non, mais nous comment pas rentrer dans des
non,
détails.
Non, alors, sans rentrer dans les détails, mais malgré tout, quand même, quand vous avez cet homme, vous n'avez jamais pensé à l'homosexualité, vous avez une quarantaine d'années et il s'approche de vous, vous vous dites, bon, en même temps, je suis
oui, mais
là,
bon,
quoi.
On avait commencé à flirter plus ou moins. Il y avait d'autres garçons qui flirtaient, donc je suppose que la vision fait que ça se passait bien, quoi.
Mais
donc,
tout était naturel ou vous dites,
moi,
vous
oui,
êtes dit, qu'est-ce
naturel.
Que je suis en train
en fait,
de faire
riais. Enfin, au départ, je riais, puis je trouvais ça drôle, en limite. C'était un peu comme si on faisait du théâtre. Oui, j'en tenais une bien, en ce
ah oui, il y a aussi ça. Vous avez raison, c'est une donnée principale.
Non, je suis un grand amateur de whisky et j'en tenais une.
Donc vous aviez picolé, ce garçon était charmant, il vous a entraîné dans
gentil,
quelque
il
chose.
Il était bien fait de sa
et
personne.
Et bim.
Et voilà.
Et vous avez, pardon, sans rentrer dans les détails, vous aviez apprécié ce moment, vous vous en souvenez même pas parce que...
Ah non, je m'en souviens.
Et vous avez apprécié ce moment.
J'ai apprécié ce moment, j'ai apprécié la rencontre, c'est moi qu'on puisse dire, mais c'est vrai que le lendemain matin, je me suis précipité chez un médecin, chez mon médecin, en lui disant, je suis malade. Bah oui, parce que pour moi, c'était une maladie.
Bah oui, bah bien sûr.
C'est vrai qu'à cette époque-là,
autre
c'était
culture.
Une maladie. Hein.
90,
et là, on n'était même pas... on était tout juste dans les années 90, et je suis tombé sur un médecin intelligent qui m'a dit, non, c'est pas une maladie, à vous de voir. Au revoir. Donc je suis rentré chez moi, perturbé.
Penaud,
pas trop, je dois l'avouer, mais perturbé. Et ce garçon, une semaine après, m'a rappelé en me disant, écoute, je suis désolé, j'ai appris que par nos amis communs que c'était la première fois, et ce qui serait bien, c'est qu'on en rediscute et qu'on dîne ensemble. Et ben voilà, on est resté 6 mois ensemble.
Et ça a été le début d'une vraie nouvelle vie ?
Ah, ça a été le début d'une vraie nouvelle vie, alors qu'on idéalise en plus, hein, parce qu'on se dit, bon, on a tout de même des souvenirs un peu durs de la... On sait, avec mon ex-épouse, on s'entend toujours très bien, mais disons que c'est des moments psychologiques quand on se sépare, et surtout quand on a été trompé, qui sont un peu durs. La vie avec la personne qui a suivi n'était pas particulièrement bien, donc on idéalise en se disant, ça y est, je vais vivre avec un homme, c'est le nirvana. Et puis dans ce moment-là, on va sur le fameux Minitel et on regarde comment ça se passe, parce qu'on
alors,
cherche à avoir des infos. Donc on se dit, ça va être le nirvana, ça va être extraordinaire. Et en fait, bon, je vous rassure, hein, il y a toujours le ménage, la vaisselle, les courses.
Oui, c'est la même chose, le quotidien, c'est la même chose.
Le nirvana redescend très vite. Oui.
Mais vous n'avez plus jamais eu de relation avec une femme après ça?
Alors, beaucoup, beaucoup plus tard, il y a ça. Bon, alors, pour faire court, donc j'ai vécu avec ce garçon pendant 6 mois.
Ouais.
Là, je l'ai annoncé à mes enfants. Ensuite,
Gay.
Comment ?
Je suis gay, vous l'avez dit.
Oui, je t'en ai dit un soir. Je suis rentré parce que non, il y a mon fils aîné qui m'a dit... Bon, j'avais les deux enfants aînés qui vivaient avec moi parce que mon ex-épouse était restée en province et pour leurs études, les deux aînés, c'était plus simple. Il y a un soir, mon fils aîné me dit, tu rentres pas tous les soirs. Donc, comment elle s'appelle ? Et je lui ai répondu, elle s'appelle Olivier. Il y a eu un blanc. Je dois l'avouer, il y a eu un moment de calme, de tranquillité, avant une explosion générale. Je me souviens d'une porte vitrée qui a explosé et d'un appel à maman.
Bah évidemment.
En disant, et mon ex-épouse qui me prend au téléphone en me disant « bien sûr, etc., je m'en doutais ». Alors on n'était pas encore divorcés officiellement. On divorce.
D'accord.
Donc bon, c'était...
C'est radical.
Puis ça a duré une semaine, et puis au bout d'une semaine, j'ai vu que les deux enfants étaient toujours à la maison. Qu'ils n'étaient pas repartis chez leur mère, qu'ils poursuivaient leurs études.
Tout s'était apaisé.
Ça s'était apaisé. Mon ex-femme, j'avais pas de coup de fil. Donc je me suis dit, bon, allons-y, on continue. Après, j'ai rencontré, donc il s'est passé une petite période.
Vous avez papillonné avec des melons ?
Ouais. Alors oui, voilà, donc avec le fameux Minitel de l'époque. Donc effectivement, là, j'ai utilisé et même abusé de la ligne Minitel. Et puis j'ai rencontré un garçon avec lequel j'ai vécu pendant presque 8 ans. Alors c'est lui qui m'a rappelé les dates au téléphone du 25 octobre 91 au 31 janvier 98. Donc ça doit faire 7 et...
Oui, c'est ça, c'est précis, hein.
Ah lui, il est très précis, moi les dates, c'est pas mon coup. Bon. Et donc après l'avoir quitté, je suis parti travailler en province, donc dans la région où j'habite maintenant. Et j'ai effectivement papillonné avec une charmante fille pendant 6 mois. Et puis là, ça n'a pas été possible. Je suis retourné... dans des endroits que l'Église condamne. Et je suis aussi rentré dans le mouvement associatif. Et dans ce mouvement associatif, j'ai rencontré un garçon qui est mon compagnon maintenant depuis 6 ans. voilà,
depuis six ans.
Et là, moi, je milite énormément dans les mouvements associatifs, étant donné que voilà, pour un club LGBT, comme on dit, dont je suis le président depuis peu.
Ça vous est tombé dessus, vraiment, en 48 heures. Alors, Émilie, vous, donc c'était pas une soirée, ça a été une rencontre.
Effectivement, c'était je vais changer d'outil, on va dire, on parle pas du Minitel, mais je vais parler des réseaux sociaux.
Comment vous êtes retrouvés à communiquer toutes les deux?
En fait, on avait la même passion pour une série télé, ouais. Et on a commencé à discuter assez naturellement, et puis des simples discussions autour de la série, on a commencé à échanger sur d'autres sujets plus personnels. Et puis, les choses ont évolué assez naturellement.
Oui, mais enfin, naturellement, vous êtes mariés, enfin, vous avez des enfants.
Exactement.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe de « hyper sympa cette fille, on a la même passion » à « et si j'étais amoureuse d'elle ?»
C'est très déstabilisant et en même temps, je dirais pas intéressant, mais on a envie de se laisser porter. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit « il se passe quelque chose ». Donc, soit on réfrène, en fait, ses sentiments, ses impressions, soit on continue.
Et vous avez choisi de continuer.
Et on a choisi de continuer, en fait, et de pas se poser de questions. Simplement, le terme, c'est vraiment se laisser porter par les choses et par les sensations, les sentiments qu'on pouvait avoir.
Dans l'intimité, c'est ce qui s'est passé aussi? Vous êtes laissé porter?
On s'est laissé porter, oui, effectivement. Sans rentrer dans les détails, mais effectivement, on est...
Mais ça doit faire peur. Enfin, alors vous aviez un petit coup dans le nez. Sans loup, on voulait pas.
Je vais avoir une réputation.
Mais non, pas du tout. On a bien compris que c'était ce soir-là.
Non, encore une fois... J'avais aucun a priori sur l'homosexualité. J'ai toujours été très ouvert d'esprit. J'en ai toujours parlé assez spontanément et assez naturellement. Pas d'appréhension outre mesure, si ce n'est que qu'est-ce que ça allait impliquer après, par la suite.
Et alors justement, qu'est-ce que ça a impliqué par la suite?
On est mariés et qu'on a des enfants, donc ça fait beaucoup de changements à envisager.
Et... Comment vous l'avez annoncé à votre conjoint?
Alors en fait, ce qui s'avère, c'est que quand j'ai commencé à échanger avec ma compagne, donc qui s'appelle Cécilia, j'étais déjà on était déjà en train de penser au divorce. On allait se séparer avec mon ex-mari. Elle est arrivée à un moment où les choses étaient
les choses n'allaient pas. Donc vous étiez déjà sur le chemin de la rupture.
Sur le chemin de la fin, la fin d'un livre, une page qui se tourne. Il arrive un moment où, ayant divorcé, étant bien installée chez moi, donc ayant quitté le domicile conjugal, elle a décidé de tout quitter pour me rejoindre en région parisienne et s'installer avec moi. Donc elle a tout quitté par amour.
Pour vous, comment vos enfants ont-ils réagi?
Alors au départ, c'est assez particulier et assez amusant. Je l'ai annoncé aux enfants en disant voilà, on va avoir une colocataire. Comment dire? C'est vrai que c'était dur déjà d'avoir un divorce. Je me suis dit, leur maman divorce. Et en plus, elle se met avec une femme. Ça va faire beaucoup, sachant que mes enfants ont 12 et 7 ans. Je me suis dit, on va y aller par étapes, même si c'était déjà assez rapide, hein, puisqu'il y a quelques mois qui séparent le divorce et l'arrivée de Cécilia dans ma vie et dans notre appartement. Donc, colocataire. Donc, on l'a laissé passer quelques temps. Je me suis dit, ils vont s'habituer à sa présence. Ils vont essayer de faire connaissance. Et je croise les doigts pour que ça se passe bien, parce que si ça se passe mal, je suis un peu embêtée. Sachant qu'encore une fois, en tant que mère, j'ai pas du tout envie de faire de choix entre mes enfants et ma vie personnelle. Et puis, quelques mois ayant passé, mon ex-mari ayant quelques soupçons et faisant des insinuations auprès de mes enfants, ma fille qui se posait des questions, l'entourage aussi. Et puis un jour, ma fille me redit « Oui, papa a dit que t'étais avec Cécilia ». Bon, et puis là, j'ai fait un signe de la tête, genre, ouais, c'est le cas. Et là, elle me regarde avec des grands yeux. Cool! Donc elle a répondu cool. Donc là, je dis, ouh, gros soulagement. Cool, hein. Elle prend les choses super bien. Bon, après, il y a plein d'autres questions qui sont arrivées par la suite.
Oui,
mais la première
réaction a été positive.
C'est cool! À l'école, ça va faire cool, quoi. C'est original. Il y a le côté décalage.
C'est original. On va se démarquer des autres.
Exactement. Voilà. C'est le premier retour que ma fille a eu.
C'est aussi ce que je vais retenir de tous vos témoignages, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, c'est les réactions finalement très spontanées et très cool des enfants. Merci à tous pour vos témoignages. Vous embrassez Franche, Cécilia, Bernard, c'est ça? Vous embrassez. Ah, c'est bon, je suis calée sur les prénoms. Merci à tous, merci infiniment pour tous ces échanges. Vous allez retrouver tout de suite Daphné Burki dans Je t'aime, etc. Je vous embrasse très fort. Merci de votre bienveillance. Restez sur France 2, vous y êtes bien. Il s'y passe des choses très belles sur ce plateau. Merci.
Ah, Grace Jones, l'éternelle rebelle, qui vient de fêter ses 76 ans. Eh oui, toujours belle. Disco Queen, tout feu, tout flamme. et icône de mode à l'extravagance hors norme, la muse de Jean-Paul Good, d'Andy Warhol et de Keith Haring. L'exemple même d'une carrière de folie 100% rock'n'roll. Eh oui, elle opère un comeback en images et surtout en décryptage de son style iconique dans le magazine Vogue. Entre veste et épaulette oversize, la coupe punk, robe et chapeau hallucinant de dinguerie. Total look, fourrure et costume androgyne. Grace Jones, chanteuse, autrice, compositrice, actrice et ancienne mannequin jamaïcaine, née le 19 mai 1948 à Spanish Town, en Jamaïque. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale aujourd'hui. Et oui, rendez-vous sur popourishow.com si vous souhaitez télécharger cette émission. Suivez nos événements et activités tout au long de la semaine, tout au long du mois, des fiertés en compagnie de francofierté.ca/2024. Merci à DJ Devora, tous nos médias partenaires RFI France 24, France 2. Et un immense merci à nos chères donatrices, donateurs. Vous êtes nombreux à avoir contribué si généreusement au succès de notre campagne de financement printanière. Mille merci. Et oui, vous ne l'avez pas fait encore, allez sur www.cut.fm et cliquez sur Donate. N'oubliez pas d'indiquer Popourri Show. Bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous. Ciao, 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 je vous laisse avec Gloria Gaynor, I Will Survive.